Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour nos deux heures d'information en direct, d'analyse, de débat avec nos invités. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, toute l'info signée Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, ces salariés de la CFDT agressés au siège du syndicat. Détails et explications dans un instant. 18h20, un rond sur le guide Michelin après la suppression de la troisième étoile du restaurant Paul Bocuse. Qu'en pensez ? Je poserai la question à Alexandre Camas. Il a fondé il y a 20 ans le guide Fooding. 19h30, on va s'installer à l'Alpe d'Huez. On va parler des comédies. Elles cartonnent au cinéma. Elles ont même ce festival qui porte le nom de la station. Et pourtant, les professionnels les boudent. Souvent encore, peut-être trop souvent même. On en parle avec les deux réalisateurs du prénom ou du meilleur reste à venir. Et avec Mathieu Charrier, qui est installé au pied des pistes. C'est l'info qu'il vous faut, toute l'info. Votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On est là, on est là, on est là, on est là. Même si Berger ne veut pas.
Des syndicats contre des syndicats, des manifestants qui s'introduisent dans le hall du siège de la CFDT. Laurent Berger dénonce une intrusion violente, il va porter plainte.
Le front syndical qui se fissure et les actions coup de poing des plus dures, le musée du Louvre a aussi été bloqué.
L'émotion à Lyon, hommage solennel aux policiers tués renversés par un fourgon le week-end dernier, nous serons sur place.
À la fin du procès du père Prénat, le jugement sera rendu en mars, le procureur a requis au moins 8 ans de prison.
Et puis le choc dans le fief de Paul Bocuse, la troisième étoile au Michelin s'est envolé.
Pour nous, c'est notre Saint-Père hein, dans la restauration. Effectivement, ils auraient mérité de la garder puisqu'il reste dans les traces de Monsieur Paul.
Dans ce journal également, les agences immobilières qui veulent ficher les locataires mauvais payeurs. Le gouvernement n'a pas l'air d'aimer l'idée.
Et les pompiers français de retour d'Australie.
On a été impressionnés très clairement par ces feux qui touchent pratiquement 20 millions d'hectares. Ça représente un quart de la France.
Et puis les règles, rien que les règles, la rigidité des autorités du foot en question. Un club sanctionné par exemple pour avoir mis des bonnets de Père Noël à des enfants. La Bourse de Paris, ce soir, finit la semaine en nette hausse, plus 1,02%, 6100 points pour le CAC 40.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Quelle couleur le ciel ce week-end ?
Alors le ciel, il sera plutôt jaune ce week-end. C'est une vraie journée d'hiver, un temps qui redevient sec, des températures en chute libre et des chutes de neige en montagne. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On est là, on est là, on est là.
Il n'était qu'une trentaine, tout au plus, mais cette intrusion à la mi-journée au siège parisien de la CFDT allume la mèche et affiche au grand jour l'éclatement du front syndical entre réformistes d'un côté et syndicats les plus durs de l'autre. Action menée par des cheminots et des agents de la RATP. Le patron de la CFDT dénonce une intrusion violente. Il va porter plainte. Écoutez le témoignage de ce militant de la CFDT.
C'était quand même assez très rassurant, oui. J'ai pensé que j'allais me prendre quelques points sur la figure, ça peut être le cas. Bon, ça a été dans la bousculade, c'était un peu assez effrayant, quoi. C'est intolérable. On peut pas, dans une démocratie, on respecte les individus. Ces gens-là sont pas des démocrates.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
C'est l'image du jour, hein, évidemment, et on a entendu aussi les sons qui vont avec. Elle est révélatrice, cette image.
Oui, c'est un symbole. Hein. Beaucoup de syndiqués estiment que la CFDT a été, d'une certaine manière, le casseur de grève. Beaucoup dans les rangs des syndicats contestataires, un reproche au premier syndicat de France de soutenir la réforme. Ça, déjà, c'est le point le plus important. Et puis surtout, d'avoir mis genou à terre avec une simple suspension de l'âge pivot. Dans les cortèges, on entend beaucoup de manifestants à l'effigie des syndicats les plus durs dénoncer l'attitude de la CFDT. Alors attention, hein, malgré tout, la CGT a tenu très vite à se désolidariser de cette intrusion. Quels que soient les désaccords possibles entre organisations syndicales, la CGT ne cautionne pas ce type d'action, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Chez Sud, hein, on dit aussi ne pas être derrière cette opération. Au gouvernement, avant même cette intrusion, certains ministres s'attendaient à de telles actions. Avec la baisse du mouvement, ils vont vouloir faire des actions symboliques. Il y a des convergences des extrêmes, glissait par exemple hier un représentant du gouvernement. Et la CFDT, comme les députés de La République En Marche, sont des cibles potentielles.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et la CGT et ses alliés semblent multiplier justement ces actions coup de poing. Le musée du Louvre, en plein cœur de Paris, a aussi été visé.
Oui, blocage des entrées de la pyramide, là même où le président président Macron a fêté sa victoire, a rappelé l'intersyndicale et face à face tendu tout à l'heure avec les touristes qui venaient profiter du musée qui a été contraint de fermer ses portes.
Sur les rails, en revanche, ça roule bien mieux. La SNCF annonce un trafic TGV quasi normal pour ce week-end. Taux de grévistes 4,6% aujourd'hui.
Et on en vient à l'hommage des policiers à leur collègue Franck Labois, cet agent de 45 ans mort en début de semaine après avoir été volontairement percuté par un fourgon lors d'une opération de surveillance.
Cérémonie solennelle dans la cour d'honneur de la préfecture du Rhône. Mathieu Bock, vous êtes sur place. Cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur.
Oui, le cortège funéraire a été suivi par plusieurs dizaines de motos. La passion de Franck Labois jusqu'aux grilles de la préfecture. Ses collègues ont porté son cercueil recouvert du drapeau tricolore au centre de la cour d'honneur devant sa famille très éprouvée. Puis Christophe Castaner, après lui avoir remis la Légion d'honneur à titre posthume, a pris la parole pour rendre hommage aux policiers tués.
Avec vous, la France a perdu un grand policier, un homme inestimable. Vous aimiez les États-Unis, vous enfourchiez votre Harley Davidson et preniez les routes, cheveux en arrière, lunettes noires sur le nez, vous empariez de chaque défi avec la même force, avec la même intensité.
Puis le ministre de l'Intérieur a élevé la voix pour soutenir ses troupes après les accusations de violences policières de ces dernières semaines.
Ravive. Moi aussi, je suis en colère. Quand je pense qu'on peut tuer un policier de sang-froid, quand je pense aux insultes, aux coups, aux projectiles qui sont lancés, quand je pense aux menaces que vous et vos familles subissez, quand je pense enfin à la complaisance pour les violences de certains et aux leçons de vertu qu'on assène à ceux qui accomplissent leur devoir républicain.
Christophe Castaner a ensuite accompagné à pied le cercueil de Franck Labois sans que les policiers ne lui tournent le dos comme cela avait été redouté.
Mathieu Bock à Lyon pour Europe 1. Hier, le parquet a annoncé l'arrestation d'un troisième suspect dans cette enquête ouverte pour homicide volontaire.
Europe 1, il est 18h05. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Après 4 jours de témoignages parfois glaçants, le procès du père Prénat a pris fin aujourd'hui même.
Le prêtre accusé d'avoir multiplié les agressions sexuelles sur les jeunes scouts qu'il encadrait pendant des décennies sera fixé le 16 mars sur son jugement. Jean-Luc Boujon, la procureure a requis une peine de prison d'au moins 8 ans.
Oui, 8 ans minimum, sachant que la peine maximale possible dans ce dossier est de 10 ans. La procureure a demandé cela pour les victimes. Un mot que Bernard Prénat a tant de mal à prononcer. Des victimes qu'il ne regarde jamais en face, a-t-elle déclaré. Elle l'a qualifié de pervers, de pédophile en série, n'accordant que peu de crédit à ses aveux mécaniques et à ses demandes de pardon. Elle a même ironisé sur sa stratégie de défense. Étrangement, vous êtes un homme coupable, mais pas responsable. Pour vous, la seule solution est donc l'enfermement. 8 ans donc demandé, ce qui satisfait Pierre-Emmanuel Germain-Thil, l'une des 10 victimes.
8 ans, ça me paraît plus que cohérent et je félicite encore une nouvelle fois Madame la procureure pour ses réquisitions, pour tout ce qu'elle a pu dire, parce que honnêtement, elle a bien fait son boulot. Quoi. Pour moi, il y a une nécessité vraiment d'enfermer cette personne. Quoi.
Parce qu'il est toujours dangereux ou il doit être puni ?
Il doit être puni et en même temps, voilà, je pense que ça reste quand même dangereux. Quoi.
Voilà, alors en face, l'avocat du père Prénat, maître Frédéric Doyer, a trouvé ce réquisitoire démesuré.
Je trouve que c'est excessif. C'est-à-dire prétendre juger 30 ans après des faits alors que les valeurs de la société ont changé, que l'homme a changé lui-même. Je pense que c'est vraiment faire comme si on jugeait une affaire d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
Voilà, le père Prénat qui s'est une dernière fois adressé aux victimes avec un petit texte préparé qu'il a lu, réitérant sa demande de pardon et assurant qu'il n'avait pas menti, qu'il avait été sincère dans les limites de sa mémoire. Le verdict sera rendu dans 2 mois, le 16 mars.
Jean-Luc Boujon en ligne du Palais de Justice de Lyon.
On en reparlera d'ailleurs de cette semaine, le procès dans les grandes voies dès 18h30. François Hollande qui prend la défense de Ségolène Royal. L'ancien président et ex-mari de l'ambassadrice des Pôles estime qu'on a, je cite, manqué d'élégance et surtout de reconnaissance. Je pense qu'elle aurait mérité de pouvoir poursuivre sa mission, a-t-il dit. C'était lors d'une visite à Rennes.
Est-ce un coup du guide Michelin, comme le dénoncent certains, ou simplement un signe des temps? En tout cas, c'est un fleuron de la gastronomie française qui a été descendu de son piédestal. Paul Bocuse, 2 ans après sa mort, s'est donc vu retirer sa 3e étoile, un choc évidemment à Collonges, sur les bords de la Saône où était installée son auberge. Mais comment le guide Michelin justifie-t-il sa décision? On voit cela avec Pierre Herbulot.
Il n'y a pas de traitement d'exception. Voilà les mots de Gwendal Poulenec, le patron du Michelin. Le guide assume donc. Les étoiles appartiennent au chef et pas au restaurant. Les établissements sont souvent déclassés après le départ ou la mort d'un chef. Et c'est valable aussi pour l'auberge du pont de Collonges de Paul Bocuse. Malgré sa renommée mondiale, malgré son histoire, le restaurant a perdu en qualité, il devait donc être déclassé, explique Gwendal Poulenec dans le journal de midi sur Europe 1.
Ce que nos inspecteurs ont noté l'année dernière, c'est qu'il y avait d'ailleurs une évolution de cette cuisine. Mm-hmm. C'est une maison qui est en pleine transition. Il y a une nouvelle équipe qui a choisi aussi d'apporter sa touche personnelle. Encore une fois, les étoiles du guide Michelin, elles ne s'héritent pas, elles se méritent. Et le guide Michelin est totalement imperméable aux effets de mode.
Le Michelin semble donc poursuivre sa mue, toujours plus intransigeant. L'an dernier déjà, trois chefs perdaient leur troisième étoile, dont le médiatique Marc Vera. Il a même attaqué le guide pour ça, avant de perdre son procès le mois dernier.
Pierre Herbulot.
Alors, vieux monde contre nouveau monde, vieille cuisine contre nouvelle cuisine. Dans quelques minutes, Alexandre Camas sera mon invité. Il a fondé, il y a 20 ans, le guide gastronomique Le Fooding.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Les locataires mauvais payeurs seront fichés, c'est l'intention, en tout cas, des agences immobilières. On vous raconte dans la suite de votre journal de 18h.
Et puis les règles à la lettre, la rigidité des autorités du foot qui interroge.
Votre grand journal du soir, 2h d'infos tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On vous en parlait dès ce matin sur Europe 1, la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, veut ficher les locataires mauvais payeurs.
Et pour éviter de relouer un logement à ceux qui ont connu les plus gros incidents. L'idée fait beaucoup réagir, Maud Descamps, et le gouvernement ne semble pas la voir d'un très bon œil.
En effet, le ministre du Logement, Julien de Normandie, est très clair. Je n'approuve pas cette proposition, dit-il. Le ministre estime que la confiance entre le locataire et le propriétaire ne se construit pas par la mise en place d'un fichier. Alors, comment va fonctionner ce fichier ? Eh bien, il sera abreuvé par les agences immobilières. Y figureront les noms des locataires qui ont de gros incidents de paiement, plus de 3 mois d'impayés. Ces mauvais payeurs resteraient au maximum 3 ans dans ce fichier et seraient désinscrits dès le remboursement de leurs dettes. Mais pour les associations de solidarité comme la Fondation Abbé Pierre, ce fichier va fragiliser une population déjà précaire. C'est ce que redoute Manuel Domergue.
Si on ne peut plus louer un logement normalement, ça veut dire qu'on va se retourner vers des solutions de fortune, se retourner vers des marchands de sommeil et puis après aller dans des bidonvilles, des centres d'hébergement, etc., etc. C'est pas comme ça que les personnes qui ont eu des difficultés vont s'en sortir.
La Fondation Abbé Pierre réclame le retrait de ce fichier. Et l'association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, a indiqué qu'elle surveillerait de très près le respect de la protection des données.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Les chiffres de Renault, Sébastien, comme pour PSA, les ventes reculent.
À l'international, mais le constructeur français limite la casse grâce au succès du low cost et de sa marque Dacia.
Il pleut enfin sur l'Australie, de fortes précipitations sont tombées sur les incendies. Elles étaient très attendues, ce qui a donné un gros coup de pouce aux pompiers. Et cela devrait continuer ce week-end.
Un gros soulagement, les sapeurs-pompiers français qui avaient été envoyés sur place pour aider les Australiens viennent tout juste de rentrer. Écoutez le colonel Bruno Uliac de la Sécurité civile, c'est lui qui dirigeait cette mission.
On a été impressionnés très clairement par ces feux qui touchent maintenant pratiquement 20 millions d'hectares sur le pays. Ça représente un quart de la France. On était sur des sites de 200, 300 000 hectares, 500 000 hectares. Ce sont des choses qu'on n'a jamais connues en France. On a été complètement en immersion dans les équipes de gestion des feux. Donc on a été dans les centres de commandement, on a été dans toutes les équipes d'évaluation aérienne, donc on a survolé les feux, essayé d'établir avec eux des cartographies à risque et comment ils pouvaient répondre. On a été particulièrement impressionnés aussi du travail de nos collègues australiens, la solidarité de la population australienne face à cette problématique.
Le colonel Bruno Uliac, joint par Roman Hockey.
La règle, c'est la règle. Il faut le savoir. Les autorités de football critiquées ce soir. Certaines s'estiment qu'elles font preuve de bien peu de souplesse.
Oui, deux cas, deux histoires. Il y a Nice qui écope d'une amende pour avoir mis à des enfants des bonnets de Père Noël. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Vous allez nous raconter. Puis il y a le cas de Fred Demby, ce joueur rouennais dont la sanction est confirmée en appel pour un hommage rendu à l'un de ses amis.
Oui, Fred Demby ne réalisera pas son rêve de gosse. Il ne jouera pas contre les professionnels d'Angers dimanche, son carton jaune. Et donc sa suspension ont été maintenues. Le joueur rouennais avait été averti pour avoir donc enlevé son maillot. Il avait laissé paraître un t-shirt saluant la mémoire du footballeur guingampais Nathaël Julan. Malgré un grand élan de sympathie et surtout le soutien du président Noël Le Graët, la commission d'appel de la fédération est restée rigide, sans doute pour ne pas créer une jurisprudence, ce que regrette vivement Fred Demby, joint en début d'après-midi par Hortense Leblanc.
dégoûté, plus dégoûté qu'en colère. Après, voilà, c'est dommage. Je leur en veux pour leur manque d'humanisme, mais quelque part, je peux pas les en vouloir parce que les règles, elles étaient comme ça avant que je fasse mon geste. J'ai de la tristesse. Ça m'aurait permis, moi, de mettre en valeur sur un match comme ça. Avec, en plus, on a un stade à guichet fermé.
Voilà, la règle, c'est la règle. Et Nice l'a également appris à ses dépens le 21 décembre dernier pour le dernier match avant la trêve. Les enfants qui accompagnaient les joueurs sur le terrain étaient coiffés d'un bonnet de Père Noël. Sanction immédiate, 2000 euros avec sursis. Les dirigeants niçois que j'ai joint ce matin estime que cette décision est ridicule. De toute façon, m'ont-ils dit, on ne payera jamais. Ils m'ont expliqué le règlement. Les enfants doivent être habillés exactement comme les joueurs. Autrement dit, si les joueurs avaient porté un bonnet de Père Noël comme les enfants, eh bien Nice n'aurait pas été sanctionné.
Cyril de la Morinerie.
Ça là.
Oui, incroyable. La Coupe de France ce soir justement, c'est l'OM en déplacement à Granville en Normandie, coup d'envoi 21h05. On ira voir un peu l'ambiance à 19h tout à l'heure.
Ouais.
Après les interrogations de l'entraîneur marseillais ces derniers jours. Et puis cette toute dernière minute, ça vient de tomber. Jean-Paul Gaultier annonce que son défilé de haute couture qui est prévu mercredi à Paris sera son dernier. Il se retire, Jean-Paul Gaultier, après 50 ans de carrière. Il avait déjà mis fin à sa ligne de prêt-à-porter il y a 6 ans.
Ah oui, c'est une nouvelle page de l'histoire de la mode hein, qui se tourne. On va y revenir, on vous livrera le détail. À 19h, il fêtera ses 50 ans de carrière dans la mode. En effet, merci Sébastien. L'info revient avec vous dans moins d'un quart d'heure. Anissa, du côté du temps, on est presque au sec partout.
Oui, presque partout, effectivement. La perturbation qui a traversé le pays aujourd'hui, elle est en train de s'évacuer, elle s'en va complètement. Alors, nous aurons quelques petites gouttes encore possibles sur le nord-est demain et les Alpes du Nord. Mais demain, c'est une vraie journée d'hiver, c'est-à-dire un temps sec, des températures en chute libre et de la neige en montagne. Il va neiger sur les sommets des Alpes et du Massif central. Les températures, je vous le disais, elles sont en baisse demain. Moins 4 à 7 degrés le matin, moins 1 à Aurillac, 2 pour Besançon, Châteauroux et Nancy. 3 degrés seulement le matin à Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'auberge à son nom, l'auberge Bol Bocuse, en périphérie de Lyon, a perdu aujourd'hui sa troisième étoile au guide Michelin et les réactions dans le monde de la gastronomie sont très vives. Peut-on détrôner une telle institution française? Je pose la question dans deux minutes au fondateur du guide gastronomique qui se veut un empêcheur de manger en rond. Alexandre Camas répondra à mes questions.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, le restaurant Paul Bocuse a donc perdu sa troisième étoile au guide Michelin 2 ans après la mort du célèbre chef. Les réactions sont très vives dans le monde de la gastronomie. Nathalie, vous recevez ce soir le fondateur du guide Fooding qui depuis 20 ans sélectionne les bonnes adresses, Alexandre Camas.
Bonsoir Alexandre Camas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous comprenez que dans le milieu de la gastronomie et même au-delà, cette annonce de la perte d'une troisième étoile pour le restaurant Paul Bocuse ait fait l'effet d'une bombe?
Dans un vieux monde, je peux comprendre que ça fasse l'effet d'une bombe, parce que évidemment, il y a des gens qui sont très 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 attachés à leur époque. Et en fait, Paul Bocuse, il appartient à une époque. Du coup, ça a été un grand grand monsieur, un grand homme. On l'a perdu il y a pas très longtemps. Tout ça est peut-être un petit peu brutal. Ouais. Mmh. Après, je connais aussi plein de gens dans le milieu qui trouvaient que de toute façon. Le restaurant de Paul Bocuse était devenu un musée et ça commençait à faire quelques années.
Alors attendez, je voudrais vous permettre d'entendre Guylaine Arabian, si vous le voulez bien, la célèbre chef étoilée. Vous allez me dire si elle appartient au vieux monde ou pas. En tout cas, elle ne digère pas, elle, ce verdict.
Moi, ça m'a complètement scié. Hein. Ils sont malades, quoi. Il représentait tellement de choses pour les meilleurs ouvriers de France, pour la profession et tout. Moi, je trouve que c'est déboulonner une statue. C'est pas élégant, c'est moche. Parce que ça représentait toute une cuisine, toute une époque qui n'était plus là et dont il était le dernier représentant. Et c'était quand même le gardien du temple. Et bousiller ça, je ne trouve pas aussi peu de temps après. Je trouve que c'est vraiment pas laissé de temps. Je ne sais pas qui a pris cette décision-là, mais j'espère qu'il n'est pas fier quand même.
Alors voilà une des réactions, typiquement, ce que je vous disais, Guylaine Arabian, donc c'est le vieux monde en quelque sorte, même s'il ne s'agit pas de parler d'elle.
C'est un peu une réaction, oui, d'une personne qui vient d'un autre, qui vit dans un autre monde. Moi, je ne suis pas là pour être l'avocat du guide Michelin, parce qu'il faudrait s'adresser aux gens du guide Michelin. Je n'ai pas dîné récemment dans le restaurant de Paul Bocuse. Je peux pas juger. Par contre, un guide, de fait, ça peut pas être une sorte de collection de statues, quoi. Ce serait absurde.
Je comprends, mais alors ça veut dire
un
que
guide,
quoi,
ça doit être vivant. Il me semble même que c'est millésimé, un guide.
Mais bien sûr, il faut dépoussiérer, il faut même révolutionner, certainement. C'est comme ça qu'on évolue, mais ça passe obligatoirement par ce type de traitement, c'est-à-dire détrôner les chefs valeureux des années 80-2000, quand le travail est fait, l'exigence est respectée, ce qui est le cas avec les équipes qui poursuivent hein, dans la périphérie de Lyon.
Pourquoi est-ce que quand la Coupe du Monde, par exemple, de la Coupe du Monde de foot, Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de 98 quand on est en 2016 ou en 2018 ou en 2019 c'est une question. Enfin, franchement, on est à côté du bon sens, quoi. Vraiment, c'est évident qu'il y a de l'actualité. C'est même notre métier de journaliste. De parler de l'actu. Et l'actu, oui, eh ben, évidemment, ça pourrait être, par exemple, l'ouverture d'un musée à Lyon, Paul Bocuse, mais c'est plus qu'on mange dans son restaurant.
Sauf que, Alexandre Camas, pardonnez-moi, mais vous avez certainement lu et entendu ce que dit le Michelin pour se justifier. La qualité demeure excellente, mais plus au niveau d'un 3 étoiles. Est-ce que ce n'est pas un peu court, quand même, comme justification pour sanctionner une telle institution ?
Je pense que c'est un métier, quoi qu'on veuille en faire, c'est de la subjectivité. Donc en gros, essayer tout le temps, en tout cas nous demander de nous justifier sur les choix en permanence, c'est à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait les choses avec une éthique. Voilà, on est là.
Mais attendez, on va être transparent avec nos éditeurs. Le guide Michelin, il possède aujourd'hui 40% de votre guide, Fooding, créé il y a maintenant 20 ans. Ça veut dire aussi que vous, quand le guide Michelin sanctionne ou au contraire met en avant une enseigne, vous avez votre mot à dire ?
Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. En fait, même, je pense que quand on se voit avec Gwendal, ça arrive de temps en temps dans l'année, mais vraiment assez rarement. Souvent, on n'est pas d'accord. Je trouve juste, à titre... Alors là, vraiment, 40%, pas 40%, actionnaire, partenaire, pas partenaire. Oui, je trouve complètement normal
qu'à un moment
donné...
Qu'on dépoussière, en fait, c'est ce que vous dites.
Encore heureux.
Bien sûr, mais est-ce que quand même le guide Michelin ne fait pas le buzz en se payant une icône de la gastronomie ? On sait que le guide Michelin, il cherche aussi à endiguer la baisse de ses ventes. En 12 ans, la baisse des ventes du guide Michelin, elle est de pratiquement 60%. C'est pas anodin.
Mais ça, c'est encore... Pardon, excusez-moi, mais c'est encore un réflexe du vieux monde. C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui le pouvoir d'influence d'un média ? C'est simplement, j'en sais rien, quand on fait du print, c'est les ventes papier ? Ou alors on commence à intégrer aussi les réseaux sociaux, quand on commence à intégrer aussi le digital ? Est-ce que le guide Michelin n'est pas plus influent que jamais que par avant ? J'en sais rien, j'ai pas tous les chiffres. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les baisses de ventes papier... Qui peut s'enorgueillir aujourd'hui dans toute la presse de dire « Ah ben moi, je suis en pleine croissance au niveau de... » Est-ce que pour autant, des grands médias comme le vôtre ou comme le journal Le Monde ou comme le Figaro, etc., est-ce qu'on est en train de dire « Oh là là... »
Donc pour vous, c'est pas un coup de projecteur sur le guide Michelin, clairement pas. C'est véritablement une réflexion au regard de la cuisine, de la finesse des plats proposés. C'est vraiment pas un coup de buzz, comme on dit.
Ce que je pense, je vais pas être très tendre avec les médias d'une manière générale. Quand Paul Bocuse est une institution, forcément, on en parle, il perd une étoile, tout le monde est présent. Quand, à un moment donné, d'ailleurs, que ce soit le guide Michelin, j'imagine, ou le guide Fooding, ou un truc, on découvre quelqu'un avec un gros, gros, gros talent, mais que ce n'est pas une institution, là, les médias sont nettement moins présents. Donc, en fait, la gastronomie, et ça fait des années que ça existe, se retrouve comme ça à la une des médias, pas pour des raisons, j'ai envie de dire... positive, mais c'est souvent par le prisme de la tristesse, c'est-à-dire quand un chef se suicide, quand on enlève une étoile à une espèce de statue, comme vous l'avez dit, c'est très bien une statue, mais une statue,
la ça
statue
Paul Bocuse,
elle était déjà là, et puis surtout, il était déjà statufié de son vivant. Donc voilà, on allait vraiment chez Paul Bocuse pour faire une photo et pour dire.
Dernière question, Alexandre Camas, quand même, Perico Legas, le critique gastronomique que vous connaissez évidemment. Évidemment, s'inquiète quand même pour l'avenir du guide. Il dit en gros, il a commis l'irréparable, il se discrédite comme jamais en enlevant comme ça cette troisième étoile à une icône. Effectivement, c'est pas un buzz quand même qui peut leur coûter cher quand on voit les innombrables réactions aujourd'hui.
Moi, je m'inquiète pour la santé mentale de Perico Legas, c'est-à-dire que je l'ai entendu dire... Que le guide Michelin s'était coupé du peuple. Moi, je, c'est assez facile de voir. Faites un sondage et regardez combien de Français, le peuple, puisqu'il parle du peuple, combien de Français sont allés chez Paul Bocuse manger au restaurant. Très peu, vraiment très très peu. Le peuple, il n'est pas chez Paul Bocuse. Le peuple, il est rarement dans les 3 étoiles.
Juste un mot sur la famille Bocuse et évidemment les équipes en cuisine dans ce restaurant dans la périphérie de Lyon, la brigade, ils se disent abasourdis de cette décision. Quel impact ça a quand on enlève comme ça une troisième étoile à une telle institution sur le restaurant ?
Il y a des gens qui ont le talent ou le courage parfois de refuser la Légion d'honneur. Donc on la leur retirera jamais. Dans la gastronomie, si vous voulez être tranquille et jamais être victime des décisions qui sont prises par d'autres que vous-même, il s'agit juste de refuser les décorations. Donc par exemple, j'imagine que pour avoir 3 étoiles ou pour il faut sûrement faire en sorte de les avoir. Donc peut-être que aussi parfois ouvrir un bon bistrot, ça peut être plus simple. Et puis il n'y a pas le risque de faire la une comme ça des médias quand subitement, pour des raisons que je trouve éminemment valable, ben, un média, en l'occurrence le Michelin, décide de remettre un petit peu, oui, de faire un update, quoi.
Merci beaucoup Alexandre Camas, en tout cas, de nous avoir dit votre lecture ce soir.
Merci à vous, j'espère que je n'ai pas eu trop la langue de bois.
Voilà. Ah bah exactement, c'est exactement ce qu'on attendait, votre franchise. Merci beaucoup Alexandre Camas.
Merci.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite du programme Nathalie Lévy.
Et on va se retrouver dans un instant avec les grandes voix du vendredi. L'affaire Bocuse, typiquement, eh bien, ça correspond à ce qu'on vous propose sur Europe 1. Écoutons Le Monde changé, voilà une illustration ce soir. Mais aussi le réquisitoire dans le procès pénal ou encore l'avenir de Ségolène Royal. Vous allez voir encore ce soir, on a de nouvelles infos, elle n'a pas dit son dernier mot.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, Sébastien Krebs.
La CGT ne cautionne pas l'intrusion de ses militants au siège de la CFDT. La centrale le fait savoir par communiqué. Aujourd'hui, une trentaine de militants se sont introduits dans le hall du syndicat réformiste. Laurent Berger va porter plainte. Sur les rails, ça roule mieux, ce sera quasi normal pour les TGV ce week-end. 90% des TER vont circuler à la RATP, trafic normal pour 7 lignes de métro. Le père Prenas sera fixé le 16 mars. Le procès s'est achevé aujourd'hui. La procureure a requis au moins 8 ans de prison contre le prêtre pédophile. Première visite chez Lubrizol pour la première fois. Le comité de suivi a pu entrer aujourd'hui sur le site de l'usine qui a brûlé fin septembre. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Le Made in France à l'Elysée, 120 produits invités à être exposés dans le palais et ses jardins. Cette foire destinée à mettre en valeur la production française sera ouverte au public dès demain. Et puis Jean-Paul Gaultier tire sa révérence. Il annonce ce soir que son défilé haute couture, prévu mercredi prochain, sera son dernier. Il fêtera alors ses 50 ans de carrière. Il évoque un nouveau projet, Jean-Paul Gaultier qui avait déjà mis fin à sa ligne de prêt-à-porter il y a 6 ans.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h. Anissa, le ciel est couvert.
Oui, le ciel est couvert demain, alors pas d'eau, hein. Le temps reste sec, mais ce sont les nuages demain qui dominent, avec d'ailleurs au sud-ouest et dans le nord-est un ciel bien plus couvert que sur le reste de la France. D'ailleurs sur les Landes et le Pays Basque, demain il pleut, hein, demain après-midi, avec même sur les Pyrénées des chutes de neige des 1000 mètres. Et dans la nuit de samedi à dimanche, la limite pluie-neige va s'abaisser à 500 mètres. Donc si vous comptez skier, faire de la luge dans les Pyrénées, ça va être possible. Tout comme dans les Alpes et le Massif central, il va neiger à basse altitude. Demain matin, eh bien, le ciel est dégagé sur quasiment toute la France, je vous le disais, sauf le sud-ouest et le nord-est. Les températures, elles sont en nette baisse avec de fortes gelées en montagne. Moins 1 à 4 degrés en général sur la France, 4 à 9 sur le littoral méditerranéen. Dans l'après-midi, 4 à 9 degrés à l'est. Nous aurons 9 degrés pour Paris, 11 en Avignon et 14 à Ajaccio. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix ce soir autour de vous. Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique, Marie-Ève Malouine, journaliste, et Bruno Jeudy de Paris Match.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio, ravi de vous retrouver.
Nous aussi.
On va commencer par l'information de cette après-midi, cette fin de journée. Ségolène Royal qui contre-attaque, mais en attendait-on autrement de la part de Ségolène Royal? On le sait, le gouvernement va mettre fin à ses fonctions vendredi prochain, ses fonctions d'ambassadrice des pôles, même si elle a déjà dit qu'elle avait quitté son poste, et elle l'annonce, ça y est, libérée de son poste, délivrée, eh bien elle va se lancer, elle va lancer la création d'une association politique baptisée, on le sait déjà, Désir de France, Avenir de la planète, lancement officiel jeudi prochain à Marseille. Bruno Jeudy, on n'est pas surpris?
Non, c'est dans la lignée de ce qu'elle a fait depuis maintenant ses posts Facebook au lendemain de l'article du Canard enchaîné, et surtout son interview d'hier soir où elle a clairement exprimé un vœu de repartir au combat présidentiel. L'a-t-elle vraiment lâché d'ailleurs? Sans doute pas. Mais là, elle est en pleine contre-attaque, à la fois sur le terrain politique et puis aussi sur le terrain judiciaire, puisqu'il y a une enquête préliminaire, et là, elle a fourni des éléments, des preuves. Donc voilà, donc Ségolène est reparti au combat, indestructible, inlassable. Je suis un peu dubitatif sur est-ce que ça peut marcher. Pour l'instant, c'est Ségolène Royal, combien de divisions? Je crois qu'elle a d'abord...
Mais toujours très populaire.
Elle reste populaire, elle est cinquième dans le classement de...
baromètre
Paris Match IFOP, elle est cinquième, donc c'est une... ça reste une femme évidemment très connue, donc elle a de bonnes opinions.
D'une certaine manière iconoclaste, elle est, aussi, elle est, elle proche est, du terrain.
Proche du terrain, à gauche ça reste une valeur, même si une partie de la gauche la trouve sans doute une bonne opinion d'elle, mais peut-être pas pour être candidate à l'Élysée. Il faut quand même se souvenir qu'elle a voulu être tête de liste au printemps, et ça n'a pas marché, puisqu'elle voulait rallier à son panache et les socialistes et les écologistes. Et même en étant deuxième, eh bien les écologistes n'ont pas voulu d'elle. Donc
Marie-Ève
Malouine n'aime pas forcément Ségolène à gauche. Mais Ségolène est quand même une voix qui compte dans un désert quand même, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Donc,
c'est ça.
Elle
c'est
va tenter sa chance.
Exactement. Du côté du Parti Socialiste, c'est quand même un peu morne-pleine, Marie-Ève Malouine. Là, un laboratoire d'idées, dit-elle, pour bâtir une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bon ben voilà, la structure, elle est là pour 2022.
Oui, et puis ce qui est clair, c'est que désormais, elle est résolument contre Emmanuel Macron. Alors même si elle ne réussit pas, elle, à fédérer autour d'elle un mouvement suffisant pour la porter à la présidentielle, ce qui est sûr, c'est que Ségolène Royal, elle s'est tapée, elle sait là où il faut taper pour faire mal, et que pour Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il trouvait qu'elle parlait trop, visiblement, quand elle était ambassadrice, maintenant qu'elle ne l'est plus. Il va voir la différence, on l'a déjà perçue, puisqu'elle tapait assez fort.
À l'intérieur, on l'a déjà perçue, oui.
Et elle sait où est-ce qu'il y a des faiblesses, elle sait appuyer là où ça fait mal. Et rien que ça, c'est une donnée qui peut être ennuyeuse pour le président de la République, même si, encore une fois, elle en a bien conscience, c'est pas sûr qu'elle arrive à fédérer, puisque c'est pas encore transformé en formation politique, mais elle va commencer par tâter le terrain.
Évidemment. En tout cas, c'est ce qu'elle envisage de transformer, malgré tout, pour 2022, cette association, si elle parvient à fédérer. Laetitia Krupa, lancement jeudi prochain à Marseille, aux côtés de la sénatrice de gauche Samia Ghali. C'est le bon endroit, la bonne personne avec qui se montrer, le bon moment?
Samia Ghali, grande gueule, oui. Personnage aussi connu, populaire. Oui, si on veut faire du bruit, pourquoi
en campagne,
pas
en campagne.
En campagne, voilà. Alors après, ça me donne l'impression d'un, vous savez, un peu de marketing politique. C'est-à-dire que le contenant a changé, parce que là, c'est plus sous les bannières du PS qu'elle revient, apparemment, puisqu'elle propose une nouvelle fondation qui pourrait devenir un parti politique. Enfin, elle nous dit qu'elle est à gauche, mais finalement, le contenu est toujours le même. Enfin, ce dégagisme-là qu'on a vécu en 2017, où Emmanuel Macron devait rebattre les cartes de la politique, finalement, qui revient ? Marine Le Pen, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas très nouveau.
Certainement aussi Dupont-Aignan, il doit l'annoncer lundi. C'est pas nouveau monde du tout. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron va rejouer 2017 avec face à lui des candidats de l'ancien monde.
Reste à de nouvelles voix d'émerger. On verra. Merci. On se reparle dans une seconde, les grandes voix.
Et vous pouvez interroger les grandes voix. N'hésitez pas en direct. Ça se passe au standard Europe 1 3921. Et sur Twitter, on lit vos messages avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat de grande voix autour de vous ce soir. Nathalie Lévy, Laetitia Krupa, Marie-Ève Malouine et Bruno Jeudy de Paris Match.
Et un auditeur aussi, Francis, qui nous appelle depuis Nancy, parce qu'on va vous parler évidemment de ce qui remue le monde de la gastronomie française depuis ce matin. Le restaurant Paul Bocuse près de Lyon qui perd sa troisième étoile au guide Michelin. Le monde de la gastronomie, mais même au-delà, c'est véritablement un séisme. Bonsoir Francis.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Dites-nous votre réaction.
Alors, il se fait que moi je connaissais Monsieur Paul, comme on dit, et j'ai déjà mangé à Collonges, dans son restaurant. Je crois que Michelin a à la fois raison et tort. Alors, ils ont raison parce que, selon leurs critères, tout comme Vera l'an dernier, Pascal Barbeau, etc., ça ne vaut plus trois macarons. Voilà, c'est tout. C'est leur grille, c'est leur... Là-dessus...
Sauf qu'on ne la connaît pas bien, leur grille. Hein.
Voilà, on ne la connaît pas bien. Alors, il sait que moi, j'ai travaillé, j'étais correspondant Michelin il y a 15 ans. Donc, je connais un petit peu quand même les critères de jugement. Mais là où ils ont tort, c'est que Bocuse restera comme Escoffier ou comme Carême dans l'histoire de la gastronomie française.
Oui,
et donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce que d'ailleurs je crois Guémiot a fait, c'est de sortir Bocuse le jour de son décès en le mettant comme institution. C'est-à-dire, on ne veut plus lui mettre trois macarons, deux macarons ou un macaron. On en fait une institution parce que c'est...
Une catégorie à part, en fait.
Voilà, c'est Paul Bocuse et on n'y touche plus.
Il y a des intouchables.
Il faut pas non plus croire qu'on mange mal chez Bocuse, parce que Bocuse ne touchait plus une poêle depuis au moins 15 ans, et qu'il a 4 meilleurs ouvriers de France en cuisine, 1 meilleur ouvrier de France en salle. Et donc, de toute façon, ça ne peut pas être ni mieux ni pire que ce qu'il y avait avant. C'est une institution, c'est on y mange très bien. Voilà. Oui. Et puis, quand on est assis chez Bocuse, on se dit, voilà, je suis chez Bocuse. Je ne suis pas là pour simplement regarder une émotion que va me donner une assiette. J'ai l'émotion d'être chez Bocuse.
Merci beaucoup, Francis, depuis Nancy ce soir. C'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir envie d'adhérer à ce que dit Francis. Ce soir, il y a des institutions, il y a des immuables. Paul Bocuse, c'est vrai qu'a priori, c'est ce qu'on se dit. En plus, disparu il y a 2 ans. Néanmoins, il est peut-être de bon ton de faire évoluer tout cela. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les grandes voix?
Alors, bah, moi, j'ai entendu la guerre d'argumentation par médias interposés, ouais. C'est-à-dire les défenseurs de Bocuse qui, comme Vera, mais qui lui-même a perdu une étoile l'année dernière, qui est en procès avec le guide Michelin, donc il parle quand même. Voilà, on sait d'où il parle, qui dit sa baseline aujourd'hui, c'était on n'attaque pas le patrimoine français. C'est ce que vous dites. Ça s'entend. Pourquoi pas? C'est ce que disait monsieur. À ce moment-là, on le sort du classement. En tout cas, potentiel il peut, on peut des s'interroger. Restaurants. Et ensuite, on a le guide, puisqu'il répond, le directeur, qui est relativement jeune, bientôt cadra. Les étoiles ne s'héritent pas, elles se méritent. Voilà, alors bien sûr qu'il faut connaître cette grille de lecture. Moi, j'aurais adoré pouvoir y avoir mangé il y a 15 ans et vous dire, y retourner et vous dire, ah bah oui, ça a changé. Non, malheureusement, je ne suis jamais allée. Je pense que c'est le seul test, c'est d'y aller, de goûter.
Il dit aussi, la qualité demeure excellente, mais plus au niveau d'un 3 étoiles. Je trouve que c'est un peu court comme explication. Bruno Jeudy, pour dire bah voilà, on en enlève une.
Non mais là c'est le guide Michelin qui est pris un peu dans ses propres contradictions, parce qu'il ne livre pas d'éléments supplémentaires pour d'appréciation si un restaurant doit rester conserver ses 3 étoiles ou les perdre. C'était déjà pareil l'année dernière. Là ça devient symbolique avec Bocuse. Les spécialistes de critiques culinaires, enfin voilà, disent que ceux qui sont allés ces derniers temps ne voient pas réellement de différence. Donc il y a visiblement différence d'appréciation, mais le guide Michelin se réfugie un peu trop derrière le secret de son
la grille
d'appréciation. Donc du coup on peut s'interroger sur la valeur du guide Michelin maintenant, c'est plutôt ça. Et donc l'opération pour eux elle n'est peut-être pas gagnante, à vouloir rajeunir l'institution, à vouloir aussi effectivement que les chefs se remettent en cause, et que finalement aucun restaurant fût le plus grand ne soit hors de, d'appréciation. Mais il faudrait qu'ils soient un peu plus clairs, ils ne le sont pas assez.
Marie-Ève Malouine.
Oui, en dehors des enjeux culinaires que moi non plus je ne peux pas apprécier malheureusement, on voit bien que c'est une stratégie par rapport aux réseaux sociaux avec toute la concurrence qu'il y a. Or Michelin, si ça peut rester dans cette concurrence-là, puisqu'il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement de guides sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce qu'on cherche, c'est la marque. Et Michelin, on sent bien qu'ils essaient de valoriser la marque, mais ils le font peut-être un peu à l'envers, parce que pour valoriser une marque, il faut aussi savoir quels sont ses critères. On ne peut plus se contenter de dire on décide de ça, mystérieusement et de façon secrète, ça devient arbitraire, alors que sur tous les autres réseaux sociaux qui se créent maintenant, il y a les avis justement, il y a les justifications. C'est peut-être là où ils ont commis peut-être une erreur, mais on sent bien aussi que d'ici l'année prochaine, ils pourraient aussi le remettre, et ça, remettre cette troisième étoile, et ça ferait quasiment autant de buzz.
Pour connaître juste la puissance d'une marque, il y a des marqueurs. Marc Vera disait, j'ai perdu mon étoile l'année dernière, mais le chiffre d'affaires a augmenté de 7%. Alors, peut-être qu'il faut voir pareil.
Bah oui, normalement.
Voilà. Donc, vous avez raison, le guide Michelin n'est plus non plus une institution comme ça l'était il y a peut-être 30 ans.
Moi, je pense que
c'est
dans les deux sens que ça fonctionne pour le hors guide ou avec guide, parce que ça dépasse la notoriété de Bocuse et de ces maisons-là, dépasse ou est égale à celle du guide.
On se retrouve dans un instant, les grandes voix. On change de sujet, évidemment. On va aller au procès Prena, parce que ça nous a occupés depuis 4 jours. On y retourne dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, Marie-Ève Malouine, journaliste, et Bruno Jeudy de Paris Match.
Et bien sûr, le procès Prena, au moins 8 ans de prison requis, jugement attendu le 16 mars. On a suivi toute la semaine dans toutes nos éditions, évidemment, le déroulé, les prises de parole, les témoignages. Cet ancien prêtre, Bernard Prena, jugé pour de multiples agressions sexuelles sur de jeunes scouts. On sera fixé le 16 mars prochain. C'est un tournant, ce procès, dans ces affaires de pédophilie et dans la manière dont l'Église va pouvoir peut-être maintenant lever le voile.
Oui, c'est un tournant d'une part parce que l'Église s'est saisie de ce problème, et puis c'est aussi un tournant pour tout le monde, que ce soit l'Église, les parents, les enfants. C'est bien le procès d'une époque, hein, jusqu'à 91, où il y avait des silences complices autour de ce prêtre, où les parents hésitaient à croire un enfant qui parlait éventuellement de choses comme ça, et les enfants eux-mêmes n'en parlaient pas. C'était aussi une époque où on ne respectait pas les enfants, où un enfant, on pensait qu'il pouvait oublier de ce genre de choses. Donc c'est le procès de tout ça qui marque un tournant pour tout le monde. Parce qu'il y avait une époque où les enfants n'arrivaient pas à respecter.
C'est un procès, c'est un tournant, on avance clairement. Mais quand même, quand on voit que le cardinal Barbarin, il a été condamné en première instance, pourtant le pape François a refusé sa démission. On est quand même dans une contradiction encore avec.
Mais totale. Ça, voilà, c'est pas pour le pape, c'est vraiment. Là, il avait l'occasion de marquer. Alors, c'était peut-être trop fort hein, comme symbole, mais il fallait absolument s'en saisir. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, bon, il va avoir 8 ans, ce prêtre.
Minimum.
Barbarin, 6 mois de prison avec sursis. Le cardinal Barbarin, 6 mois de prison avec sursis. Ouais. Il fait appel. Ouais. On sait aujourd'hui, puisque le prêtre, le père Prénat l'a dit, qu'il avait confié au cardinal Barbarin, qui était coupable d'agression sexuelle en 2010. Donc maintenant, c'est trop tard, puisque de toute façon, le procès de Barbarin a eu lieu. Là, vraiment, il me semble que c'est le moment pour l'Église, pour l'institution qu'est l'Église, de se saisir de cette occasion historique de briser l'omerta criminelle. Moi, j'irais plus que complice, c'est criminel.
Parce que sinon, Bruno, je dis, ce ne seront que des mots. Si oui, l'Église ne bouge pas, si l'Église ne tape...
Ça, c'est sûr que l'Église va devoir bouger. Elle le fait trop peu jusqu'à présent. Et l'examen de conscience de l'Église française va devoir se faire comme ça a été fait dans d'autres pays, puisque c'est l'Église tout entière qui est traversée par ces problèmes de pédophilie chez les prêtres. En ce qui concerne la France, il faut juste rappeler à nos auditeurs qu'on est quand même face à quelqu'un, alors il se trouve que c'est un prêtre, qui est probablement un des plus gros pédophiles de l'histoire récente.
Hein. Ça se chiffre en milliers.
Ça se chiffre en milliers. Une victime quasiment par jour pendant 20 ans. Donc là, on est quand même. C'est extravagant. Ce monsieur, en soutane ou en short scout, quand même fait des choses qui sont hallucinantes.
Et donc, il l'a dit dès son séminaire.
Et il l'a dit, et dès 1967, il y avait de quoi se pencher sur sa psychologie parce qu'on l'avait entendu, il avait pu.
Et largement couvert au moins par deux. Évêque de Lyon, de Courtrai et Barbarin. Donc on est quand même face à une Église qui est totalement...
Aveugle et sourde.
Aveugle et sourde, absolument. Donc le cas Prénat sera réglé par la justice des hommes et c'est très bien ainsi, on verra sa peine, il n'est pas là pour la commenter. En revanche, l'Église, l'autorité ecclésiastique française vont devoir se pencher sur en tirer des conclusions.
Oui, parce que là, on verra l'appel de Barbarin. Parce que lui, c'est non-dénoncé. Il était au courant et il n'a rien dit. C'est ça que j'appelle le silence complice, puisque dans l'Église, on savait, puis on considérait bien que ce prêtre, comme il ne le faisait plus, et bien tout ça faisait partie du passé.
Comme il disait qu'il ne le faisait plus, on considérait que
elle s'en était remise. On n'y pensait pas du tout. Ça a changé quand même.
Denis nous appelle des Deux-Sèvres. Bonsoir Denis.
Bonsoir Nathalie et à vos invités les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi le procès Prénat et vous dites quoi ce soir?
C'est l'occasion manquée pour l'Église catholique, les croyants. On n'a pas assez pensé aux victimes. C'est vraiment passer à côté de la transparence. La communauté catholique s'est trompée à travers ce procès, je pense. C'était vraiment l'occasion unique de mettre les choses à plat. C'était le moment, c'était l'occasion. On avait le procès type. Et je pense la grande erreur de l'Église catholique, c'est de ne pas l'avoir fait.
Alors on va voir avec le procès Prénat dans quelle mesure on va pouvoir se rattraper. Merci beaucoup Denis de nous avoir appelé depuis les Deux-Sèvres parce qu'il y a effectivement aujourd'hui l'occasion de se regarder en face et de faire son examen de conscience. Et puis parce que jusqu'à présent c'est quoi? C'est des fidèles qui sont prêts à participer à l'indemnisation des victimes. On sait qu'il y a ce fonds spécifique de dotation depuis quelques mois maintenant. C'est un geste financier, c'est bien, mais c'est un peu court.
Il y a un geste de reconnaissance qui devrait être fait. Puis dans d'autres pays, il y a eu des enquêtes menées à l'intérieur de l'Église, des sanctions, et puis la reconnaissance formelle que l'Église et tout son clergé, une grande majorité de son clergé, s'est tu et s'est trompé et le regrette. Parce que même Prénat, quand on écoute ce qu'il dit, ce qu'en rapporte la presse, lui, ce qu'il dit par exemple, c'est qu'il regrette...
Il demande pardon, mais maladroitement, il minimise.
Il ne se rendait pas compte, c'est ce qu'il dit. Et puis, sur sa vie, il dit, j'essaie de retrouver la phrase, « Je ne dirai pas que ma vie a été une imposture, elle a été un drame, et voici l'ordre dans lequel il donne les choses, pour moi, pour mes victimes, pour l'Église. Mais dans ce drame, il y a des victimes avant tout. Et lui,
il dit que lui-même, il
l'a pas dit aux experts psychiatres qui l'ont examiné.
Le pape l'a fait dans plusieurs pays, en Irlande, dans plusieurs pays, plusieurs déplacements. Il s'est excusé auprès des victimes.
Pas avec
Barbarin. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait avec Barbarin. Oui. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait avec le sommet de la hiérarchie des pays où il y a eu des faits de ce type.
En tout cas, pour le jugement, il faudra attendre jusqu'au 16 mars prochain. Merci beaucoup les grandes voix, Bruno Jeudy, Marie-Ève Malouine, Laetitia Krupa. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Nathalie
Le Lévy. Journal de 19h, signé Sébastien Krebs, à la une de l'actualité. Ce soir, nous serons à Rouen, aux abords de l'usine Lubrizol, où la colère est encore très vive pour les citoyens.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy. La suite du programme pour la prochaine heure, Nathalie.
Alors, le programme politique d'abord, avec le ministre de l'Intérieur à Bron aujourd'hui. Le député La République En Marche, Jean-Michel Fauvergue, sera donc l'invité d'Aurélie Herbemont. 19h20, demain, c'est en résonance avec Le Monde qui change sur Europe 1. On est demain en France, dans le monde et dans nos vies. Et puis, dès 19h30, les comédies, encore boudées par la profession, mais qui cartonnent au cinéma.
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat.
Vous avez tous reconnu, intouchable, François Cluzet, Omar Sy et nous, on s'installe à l'Alpe d'Huez avec Mathieu Charrier. Dans quelques minutes, 19h30, on recevra ici même les réalisateurs du Prénom et du Meilleur Reste à Venir.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Bonne soirée avec Europe 1, il est 19h.
Moi j'en ai gros sur le cœur parce que ça a été vraiment mal géré, mais du début à la fin.
Les riverains de Lubrizol à Rouen ont boudé l'invitation. Les associations conviées pour la première fois sur le site de l'usine qui a brûlé il y a déjà 4 mois.
La CGT se désolidarise de ses militants. Action coup de poing contre le siège de la CFDT. Le musée du Louvre a aussi été bloqué.
Dans ce journal également, Jean-Paul Gaultier qui tire sa révérence. Et puis Marseille à Granville, c'est les 16e de finale de la Coupe de France.
Et le temps de ce week-end, Anissa.
Alors pour demain, beaucoup de nuages sur toute la France, beaucoup moins de pluie et des températures en chute libre avec même des gelées en montagne. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Près de 4 mois après l'incendie, c'est donc la toute première fois que le comité de suivi composé d'élus locaux, d'associations et aussi de l'autorité de santé a été autorisé aujourd'hui à entrer sur le site de l'usine de Rouen. Hélène Terzi, on vous rejoint sur place. Sauf que tous n'ont pas voulu y participer. Une association de riverains notamment a boudé l'invitation.
Effectivement, et ils ont voulu le faire savoir devant l'entrée de l'usine. Ils étaient une vingtaine en combinaison blanche et masque sur la bouche. Pour demander plus de transparence, ils ont artificiellement fait retentir une sirène.
La sirène citoyenne fonctionne bien. Petit message à notre préfecture qui aurait pu prévenir ses habitants très tôt le matin.
Souvenir à tous les citoyens par dizaines de milliers pollués, lubrisolés.
Quelques minutes après, le président du collectif de riverains, Simon de Carvalho, engage la discussion avec une représentante de Lubrizol.
Oui, c'est pacifique.
Non, il n'y a pas de problème. C'est en fait, je pense qu'important.
Moi, j'en ai gros sur le cœur parce que ça a été vraiment mal géré, mais du début à la fin. D'où est parti cet incendie? Beaucoup de produits toxiques, ce cocktail.
Les analyses montrent qu'il n'y a pas d'incidence négative pour la santé et l'environnement. Ça a été prouvé. Qu'est-ce que vous faites de ça?
Cette invitation déclinée par le collectif, la directrice générale France de Lubrizol, Isabelle Striga, le regrette profondément.
Je pense que c'est dommage qu'il ne soit pas venu à la commission. Et je comprends tout à fait les craintes des riverains. Maintenant, il faut que tous ensemble, on tourne la page et il faut qu'on s'écoute. Nous avons des choses à dire, à expliquer. Les riverains ont des questions à poser et je trouve que c'est bien qu'on se rencontre.
Une rencontre en revanche acceptée par les élus et autres associations conviées. Beaucoup sont rassurés, même si des doutes persistent, me confiait une élue.
Hélène Terzian, en direct de Rouen pour Europe 1.
La CGT se désolidarise de ses militants. Elle ne cautionne pas l'intrusion aujourd'hui dans le hall de la CFDT.
Incident qui met au grand jour les divisions du front syndical. Ils étaient une trentaine. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, va porter plainte. Il dénonce une intrusion violente.
Des actions coup de poing qui se multiplient d'ailleurs de la part des syndicats les plus durs. Le musée du Louvre, le musée parisien, a aussi été visé aujourd'hui.
Et blocage des entrées de la pyramide. Le musée a dû fermer ses portes pour la journée, ce qui a mis très en colère les touristes.
Ils sont 20, on est 500 à faire la queue. C'est inadmissible. Je perds 40 euros pour ma grand-tante et moi. C'est inadmissible. Il faut que la police enlève ces gens d'ici.
Nous venons d'Alsace, donc bon, ça nous dérange beaucoup.
Je vous entendais huer là, à l'instant.
C'est un ras-le-bol et une image pas très sympa quoi, pour tous ces touristes qui viennent découvrir la France. Et donc, c'est loin d'être drôle.
Là, c'est l'intersyndicale culture, c'est le monde de la culture qui se mobilise aujourd'hui.
Alors, c'est l'intersyndicale culture et plus particulièrement au musée du Louvre. C'est une volonté de notre part de se rassembler autour de cette pyramide et de manifester notre mécontentement. Leurs billets seront remboursés, ça c'est un engagement qu'a pris la direction du Louvre. Et donc, ils auront tout à loisir de revenir visiter le musée.
Ouais, sauf qu'on n'est pas forcément tous les jours à Paris. Propos recueillis devant le musée du Louvre par Pauline Jacquot. Mobilisation en décrue à la SNCF. Ce week-end, le trafic sera quasi normal pour les TGV. Les TER rouleront à 90%. À Paris, 7 lignes de métro sont ouvertes.
Le procès du père Prénat a pris fin aujourd'hui même. Le prêtre accusé de multiples agressions sexuelles sur des enfants sera fixé le 16 mars. La procureure a requis au moins 8 ans.
La réplique de Ségolène Royal, elle ne sera plus ambassadrice des pôles, ça on l'a compris. Mais elle va créer une structure politique pour préparer la présidentielle. C'est ce que révèle ce soir le journal Le Figaro. Un laboratoire d'idées nommé Désir de France, avenir de la planète. Elle pourrait l'annoncer la semaine prochaine.
À Marseille, a priori. Le Made in France qui s'expose à l'Élysée. 10 000 visiteurs attendus ce week-end. Sébastien, 120 produits exposés dans le palais et ses jardins.
Expo inaugurée par Emmanuel Macron tout à l'heure, qui en a profité pour avoir une pensée, je cite, pour la mémoire de M. Paul et de sa famille. Paul Bocuse, à qui le Michelin a retiré sa 3e étoile. Le président de la République n'est pas là pour refaire le classement des uns et des autres, a tout de même dit le président de la République.
On change d'univers. Le football, c'est la Coupe de France, 16e de finale.
L'OM en déplacement à Granville, en Normandie. On verra quelle sera l'ambiance après les propos de l'entraîneur André Villas-Boas et les doutes qu'il a formulés sur son avenir ou comment ce match anodin est devenu un test crucial pour la fin de saison. Jean-François Pérez, vous êtes sur place.
Et oui, en 48 heures, la température s'est considérablement rafraîchie à Marseille. Il aura suffi d'une seule sortie du très populaire entraîneur André Villas-Boas pour assombrir l'horizon. Le technicien portugais ne cache pas son irritation. Après l'arrivée surprise d'un nouveau conseiller chargé de vendre des joueurs, les finances de l'OM sont dans le rouge, c'est vrai, mais Villas-Boas ne veut pas qu'on touche à son équipe ni à son directeur sportif actuel auquel il a lié son destin marseillais. Les joueurs sont avec lui, les supporters aussi, et une fois de plus, c'est la direction du club et en particulier le président Jacques-Henri Hérault qui font les frais de la colère locale. Hérault, menacé de mort, a porté plainte, le responsable s'est excusé, mais l'épisode est symptomatique de cette séquence délicate. Soit l'OM remporte ici ce soir son match face aux amateurs de Granville et retrouve un peu de sérénité, soit les Normands réalisent un exploit et plongent l'OM dans une nouvelle crise. Ce soir, c'est acquis tout double.
Jean-François Pérez en ligne de Granville. Coup d'envoi 21h05.
Et puis c'est une nouvelle page de l'histoire de la mode qui se tourne.
Jean-Paul Gaultier tire sa révérence. Il annonce ce soir que son défilé haute couture prévu mercredi prochain sera son dernier. Il fêtera alors ses 50 ans de carrière.
L'histoire du jour. Et quelle histoire ! Un tableau de Klimt vient d'être retrouvé par hasard.
Il avait été volé il y a 20 ans dans un musée en Italie et ce sont des jardiniers qui sont tombés dessus en arrachant du lierre sur un mur extérieur. Le portrait d'une dame n'était donc pas bien loin. Il avait été laissé dans une bouche d'aération du musée, enveloppé dans un sac poubelle.
Et ça n'arrive qu'une fois ou presque. On va terminer avec la surprise de la nuit dernière côté musique, la star du rap, Eminem, de retour.
Eh oui, Eminem, dont on n'entendait plus tellement parler depuis ses tubes des années 2000 comme celui-ci. Nouvel album sorti donc sans prévenir, sans promo ni single la nuit dernière. Angèle Châtelier, alors ça donne quoi?
Eh bien, presque 2 millions de vues en 5 heures pour le titre Darkness. On peut dire que ce retour impromptu est réussi. Un disque de 20 chansons dont la pochette est inspirée d'Alfred Hitchcock. De couleur rouge sang, on voit Eminem avec une hache au bras droit, un pistolet sur la tempe avec l'autre, exactement comme sur le disque du compositeur Jeff Alexander qui avait fait poser le réalisateur britannique. Sur la chanson Darkness, on entend aussi une référence à une célèbre chanson de Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend. So much like my father, you would think that I knew him. Eminem s'est entouré de rappeurs comme Anderson .Paak et il a aussi refait appel au chanteur Ed Sheeran avec qui il avait déjà collaboré. It's one of those kind of nights. This beat keeps taking me back like my ex does. Music to be Murdered By, le nom de ce nouvel album d'Eminem, est aussi puissant que sombre, comme à l'habitude du rappeur. Il n'hésite pas à prendre position sur l'usage des armes à feu aux États-Unis, à inciter ses auditeurs à aller voter, intégrant même un lien pour s'inscrire sur les listes électorales à la fin de son clip.
Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1, Music to be Murdered By Darkness. Tout ça, ça a l'air très sombre.
Très sombre, ouais. 11e album pour Eminem et toujours aussi controversé. Ça, il sait faire parfaitement. Merci beaucoup Sébastien. 19h30, l'info revient avec vous. Le froid arrive et s'installe, Anissa.
Oui, effectivement, j'espère que vous n'avez pas rangé vos doudounes trop loin parce qu'il va falloir les ressortir à partir de demain, effectivement.
Donc c'est enfin l'hiver, vous voulez dire.
Des gelées. Bah, c'est ça, c'est l'hiver, mais alors le temps est sec. Donc dans les prochains jours, on va avoir un froid sec ensoleillé avec des températures basses. On va avoir de vraies journées d'hiver. Alors je vous rassure, ça descend pas très bas non plus. Mardi, mercredi, on aura 8 degrés en moyenne dans le sud de la France l'après-midi. C'est vrai que c'était les températures du matin il y a quelques jours. Bon, ça baisse un petit peu. C'est surtout en montagne que nous allons avoir de fortes gelées. Alors demain, les nuages vont dominer au nord-est et au sud-ouest avec quelques gouttes sur les Landes et le Pays Basque demain après-midi. De la neige est prévue sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Vous aurez des flocons par endroit à partir de 600 mètres, donc il neige à basse altitude. Bonne nouvelle pour les amateurs. Et puis partout ailleurs, c'est un ciel couvert avec quelques belles apparitions du soleil et le vent d'ouest qui souffle sur l'île de Beauté jusqu'à 70 km/h. Les températures, je vous le disais, demain après-midi, prévoir 10 à 13 degrés dans le sud, 4 à 9 à l'est. Nous aurons 9 degrés à Paris, 11 en Avignon et 14 pour Ajaccio. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
L'interview politique avec vous dans un instant et votre invité.
Jean-Michel Fauvergue, député LREM de Seine-et-Marne et ancien patron du RAID. On parlera des violences contre la police et des violences policières.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec l'interview politique, Nathalie Lévy.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, Jean-Michel Fauvergue, député de La République En Marche de Seine-et-Marne.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel Fauvergue.
Bonsoir.
Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à Franck Labois. Ce policier est tué à Bron, percuté par un fourgon en fuite. D'autres policiers ont été victimes de violences ces dernières semaines. La situation est plus critique que lorsque vous étiez dans la police.
La situation a toujours été, d'une manière générale, critique avec des policiers qui sont toujours, des policiers et des gendarmes, qui sont toujours sacrifiés pour leur travail, qui courent un danger important et qui courent de plus en plus de dangers. Alors, on a les dangers terroristes, on a le danger lors de manifestations, quand on a des casseurs et qui veulent venir brûler des policiers et qui leur jettent des cocktails. On a et cette situation de lutte contre la délinquance et contre le banditisme dans lequel était pris ce collègue à Bron.
Oui, effectivement. Mais pour vous, il y a eu un avant et un après Gilets jaunes ou pas, où c'était déjà effectivement très violent à l'égard des policiers avant?
La situation de violence que l'on connaît aujourd'hui n'a fait qu'empirer. Alors, la situation de violence, on l'a connue sur les attentats terroristes,
bien sûr.
Une extrême violence, bien évidemment, comme vous le savez. Mais cette violence a commencé ensuite à se répandre et on l'a connue très rapidement dans les maintiens de l'ordre, des maintiens de l'ordre très violents, avec, je vous dis, des intentions qui sont des intentions qui vont au-delà du fait de manifester ou même de se confronter à la police comme on le faisait traditionnellement, qui vont avec l'idée de venir casser du policier, de venir brûler du policier, de venir esquinter du policier aussi.
Alors Christophe Castaner, dans son hommage, a dénoncé les leçons de vertu données par certains à ceux qui accomplissent leurs devoirs républicains. Ces mots, ils sont les bienvenus, alors que depuis le début de la semaine, on entend beaucoup parler des violences policières.
Oui, il a raison. Il a tout à fait raison. Il y a véritablement une partie minime d'une espèce d'opinion publique qui fragmente notre société en s'appuyant sur un certain nombre de choses et en essayant de déstabiliser complètement. Vous voyez bien d'ailleurs qu'on est dans une asymétrie importante. Les choses tournent en boucle quand il s'agit d'accuser des policiers, des fonctionnaires, des représentants de l'État, de l'autorité. Les choses tournent en boucle assez rapidement sur les réseaux sociaux.
On a vu des images effectivement cette semaine de tirs de LBD à bout portant de la part de policiers, croche-pied à des manifestants et bien sûr le décès de Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans après une interpellation. Vous, ces images aussi vous ont choqué. Vous emploieriez les mêmes termes qu'Emmanuel Macron, des comportements pas acceptables quand vous voyez ce type d'image?
Il faut appuyer les forces de l'ordre quand elles sont au contact et qu'elles défendent la sécurité des Français, c'est quelque chose d'important. Et il faut leur rappeler de manière régulière. Et tout commissaire de police, moi j'ai été longtemps commissaire de police, tout commissaire de police, tout homme politique, tout responsable doit aussi dire que les représentants de l'État, ceux qui ont une autorité, pas seulement les policiers, ceux qui ont une autorité dans l'État, les policiers, les politiques, les magistrats, enfin tout le monde, ont aussi un devoir d'exemplarité. Mais attention, exemplarité, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des super-héros. Les gens sont faillibles.
Les gens sont faillibles, les policiers aussi. Le chef de l'État, notamment en début de la semaine, demandait à Beauvau de faire des préconisations, des propositions pour améliorer la déontologie et le contrôle de l'action des forces de l'ordre. Vous avez des propositions pour améliorer la déontologie, surtout à l'heure actuelle, vu les exemples qu'on a vus ces derniers jours?
Au Parlement, l'Assemblée nationale et dans la majorité, nous avons créé à la demande de notre président de majorité un groupe d'action politique de sécurité. Ce groupe d'action politique, je le co-anime avec un autre collègue et on s'inscrit pleinement dans cette action-là et on est en train de faire des propositions.
À quelle échéance vous comptez pouvoir faire des propositions?
Mais on va faire des propositions tout au long du reste du quinquennat qui nous reste. Là, on va faire des propositions rapides dans ce domaine, dans le domaine de la déontologie. On va s'inscrire et on s'inscrit dans le livre blanc actuellement qui est en train d'être discuté. Et on continuera ensuite à faire des propositions sur l'ensemble du spectre qui va nous permettre de faire des propositions pour améliorer la sécurité au service des Français.
Alors, on a parlé de la police, parlons aussi de la justice. On va être transparent avec les auditeurs. Avant de rentrer dans ce studio, vous m'avez parlé d'un événement qui vous a choqué hier, la libération, je rappelle pour les auditeurs, d'un homme condamné à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son ex-compagne près de Perpignan. Libération due au dépassement du délai raisonnable de 2 ans pour que son procès en appel se tienne. Conséquence d'une justice surchargée. Il y a un problème avec la justice dans notre pays, Monsieur Fauvergue.
Il y a un très net problème dans cette affaire-là, en tout cas, où on parle de féminicide. Mm-hmm. Les féminicides, on en a beaucoup parlé.
146 l'an dernier.
Voilà, on est à peu près à 150 l'année dernière. On en a beaucoup parlé. Tout le monde en a parlé. Le gouvernement, il y a eu un Grenelle là-dessus. Le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ont voté des lois à la quasi-unanimité pour l'Assemblée nationale, à l'unanimité pour le Sénat. C'est un problème fort. Et on a une décision de justice qui est hors sol. Hors sol. Pourquoi ? Parce que à un certain moment... Alors, j'ai repris cette décision de justice et la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, qui juge sur le droit, dit qu'il n'y a pas de circonstances insurmontables permettant de justifier la longueur de la détention. Donc, on le met dehors. Ils jugent sur le droit, ils ont raison.
Sur le droit, ils ont raison. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour des délais trop longs d'audiencement.
Oui, Oui, mais ça veut dire qu'auparavant, il y a une erreur. Il y a une erreur, ces délais sont trop longs. Pourquoi sont-ils trop longs? Et ça, c'est sous l'emprise, sous la main de justice. Mmh. Donc la justice, à un certain moment, elle aurait dû s'apercevoir qu'on se mettait dans une situation telle qu'on allait libérer cet assassin.
Mais alors,
donc,
qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne revoie pas ce genre de scénario?
Il y a véritablement une erreur auparavant. C'est une erreur qu'il convient de voir, de corriger. Et peut-être d'en tirer des sanctions, mais des sanctions dans le
des
domaine...
Des sanctions, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les magistrats, comme vous le savez, sont indépendants. Pour autant, ils ne doivent pas être irresponsables et ils doivent pas être impunis quand il y a une responsabilité.
Vous parlez d'irresponsabilité, là, dans ce cas présent?
Écoutez, madame, soyons clairs. On a mis en liberté un assassin qui était condamné à 30 ans de prison, qui avait prémédité... qui avait été condamné en première instance. Et auparavant, la victime qui avait été tuée, c'est-à-dire son épouse, avait auparavant signalé au parquet ces violences-là. Il y a eu à plusieurs niveaux des problèmes particuliers. Et d'ailleurs, les problèmes de féminicide dans ce domaine-là, si je me rappelle bien, la garde des Sceaux, à un certain moment, s'est prononcée là-dessus. Elle avait dit qu'il y avait quelques problèmes dans ce domaine.
Et pour vous, il ne faut plus qu'on revoie ce genre de problème dans notre pays. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue, d'avoir été mon invité.
Je vous en prie. Merci.
Merci à vous. Et à noter, 10h à 11h dimanche, le grand rendez-vous sur Europe 1 avec le patron des Républicains, Christian Jacob, au micro de Mickaël Darmon, CNews et Les Échos.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h, la suite du programme Nathalie Lévy.
Restez avec nous parce que dès 19h30, on va filer du côté de l'Alpe d'Huez. On va parler de cinéma, les comédies, celles qui nous font rire, celles que vous aimez.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours, juste avant 19h30, on vous propose de prendre un temps d'avance et de regarder ce qui va se passer demain, Nathalie.
Et oui, c'est ça, écoutez, le monde changé, c'est s'installer notamment en région et puis un peu plus loin, vous allez voir. D'abord à Nice, Christian Estrosi a annoncé dimanche dernier être candidat pour un nouveau mandat dans la cité de la Baie des Anges, le troisième. Et ce week-end, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy lance sa campagne. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur, l'ancien président de la République est d'ailleurs venu en ami, comme cela, cette semaine à Nice.
Effectivement Nathalie, c'était à l'occasion de l'inauguration d'un parc situé sur le site de l'ancien stade du Rail et tout le monde était là, le député LR Éric Ciotti aussi, après des mois d'une guerre fratricide, les deux hommes ont fait la paix après la division. Christian Estrosi se félicite de ce rassemblement et Nicolas Sarkozy aussi.
Je suis content de voir tous mes amis ensemble et ça me fait plaisir, je crois qu'il n'y a pas que moi qui suis content, tout le monde apprécie. Vous savez, quand on voit toutes les villes, le rassemblement et l'unité, ce n'est pas l'exemple qui est donné partout. Je suis bien content que ça soit donné ici. Que ça soit Éric ou Christian, c'est très bien, et bien sûr.
Vous irez soutenir d'autres candidats?
Ce n'est pas du tout ma démarche. J'ai un lien avec Christian, j'ai un lien avec cette ville. Mais ce n'est pas quelque chose de pas rentrer dans la campagne des municipales, pas du tout.
Alors cependant, Frédéric, Éric Ciotti ne devrait pas être sur la liste aux côtés de Christian Estrosi.
Non, mais des proches du député LR devraient y figurer, même si rien n'est arrêté. Les listes doivent être bouclées, vous le savez, pour le 27 février. Et Christian Estrosi souhaite les meilleurs pour sa ville. Durant la campagne, pas de grand meeting, un ou deux seulement. La priorité, c'est la rencontre avec les Niçois. C'est d'ailleurs son slogan, l'essentiel, c'est vous. Alors, 18 réunions de quartier sont prévues. Christian Estrosi souhaite co-construire quartier par quartier son programme avec les habitants. Il devrait y avoir 9 autres listes, mais face au maire sortant qui ne brigue aucune investiture et qui est en retrait de son parti, les Républicains face à lui, La République En Marche n'a toujours pas officiellement désigné de candidat et il est possible que le parti présidentiel n'investisse personne, même si un député niçois LREM, Cédric Roussel, a déjà annoncé ses ambitions. La gauche, elle, part divisée. Le Rassemblement National, lui, se tient en embuscade. Mais Christian Estrosi a un boulevard grand comme la promenade des Anglais. Il est quand même intéressant de noter que selon un sondage, le candidat qui a toujours ménagé le président Macron obtiendrait moins de voix s'il obtenait officiellement le soutien LREM et LR.
Ah oui, donc à suivre de très près, mais c'est vrai que selon les derniers sondages, il arrive largement en tête. Merci beaucoup Frédéric Michel, on vivra avec vous cette campagne des municipales dans les différentes villes du sud-est de la France. Demain dans le monde, c'est aussi votre rendez-vous direction l'Italie ce soir avec Blandine Hugonnet. Bonsoir Blandine.
Bonsoir Nathalie.
Un mouvement citoyen appelé les Sardines se mobilise en Italie contre l'extrême droite et son leader Matteo Salvini. Ces Sardines préparent une grosse manif dimanche là.
Oui, une grande mobilisation nationale organisée à Bologne, là où tout a commencé.
mouvement, c'est ce mouvement populaire est né dans cette ville du centre de l'Italie le 14 novembre dernier. Et quatre amis trentenaires ont voulu exprimer leur ras-le-bol des discours de haine des populistes. Et un soir où Matteo Salvini passait chez eux pour un meeting sur Facebook, ils ont lancé une invitation aux habitants à aller sur une place de la ville se serrer comme des sardines pour faire bloc contre les souverainistes. 15 000 personnes sont venues avec des pancartes de poisson la première fois à Bologne. Et dimanche, ils espèrent être bien plus nombreux. Le phénomène a fait tache d'huile dans toute l'Italie. En deux mois, 500 000 sardines ont déjà manifesté dans une centaine de villes.
Bon alors, est-ce que les sardines bien serrées, bien collées, peuvent réussir à faire barrage à Salvini ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu des élections locales qui ont lieu la semaine prochaine, le 26 janvier, dans la région de Bologne, là où sont donc nées les sardines. Une région dirigée par la gauche depuis un demi-siècle, un bastion historiquement rouge et qui pourrait bien passer aux mains de Matteo Salvini. C'est ce que veut à tout prix empêcher les sardines. En tout cas, leur grosse manif de dimanche, c'est leur dernière chance de freiner l'ascension continue du leader de l'extrême droite. Et Salvini, qui n'est plus au pouvoir depuis l'été dernier, mais qui est toujours largement en tête des sondages en Italie.
Merci beaucoup, Blandine Hugonnet, depuis l'Italie. Pour Europe 1, justement, les sardines, reportage complet à Bologne à découvrir dimanche dans les carnets du monde de Sophie Larmoyer. Votre rendez-vous sur Europe 1. Demain dans nos vies, bonsoir Thierry Dagiral.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue, un coup de chapeau ce soir à 8 étudiants de l'école Epitech de Rennes. En fait, ils ont imaginé quoi ? Une borne d'accueil pour réduire le temps passé en salle d'attente chez le médecin.
Ah, vous savez que 60% du temps d'une consultation médicale est dédié à interroger le patient pour faire le diagnostic. Eh bien, ces étudiants ont eu l'idée de créer une borne d'accueil que les médecins pourront implanter dans les salles d'attente. Concrètement, vous arrivez chez votre médecin, la borne vous posera une série de questions simples pour localiser votre douleur, vous demandez vos antécédents médicaux, mais aussi prendre votre pouls, votre tension, votre température et votre poids. Et tout cela sera digéré, analysé par un système d'intelligence artificielle.
Bon, c'est très ingénieux, c'est très malin, mais c'est peut-être aussi la fin des médecins du coup.
Mais loin de là, parce que la consultation proprement médicale sera donc plus courte.
D'accord.
C'est un gain de temps pour le médecin. Voilà. Et ça réduit aussi l'attente pour les patients. Ces jeunes étudiants visent en priorité les maisons de santé et les trop peu de médecins présents dans les fameux déserts médicaux. Un premier prototype de borne de ce type devrait être prêt dans 2 mois d'ici mars prochain.
Bon, on testera alors.
Pas mal, hein.
Merci Thierry, merci beaucoup.
Vous,
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Le rappel des titres dans une seconde, juste après 19h30, on va se détendre, on va parler des comédies qui cartonnent au cinéma. Classique.
Les bronzés.
Lequel ?
Font du ski.
Bon. Avec les deux réalisateurs du prénom qui vont s'installer dans ce studio, ou bien du meilleur reste à venir, là encore récemment en salle avec Patrick Bruel, Fabrice Lucchini. On sera en direct de l'Alpe d'Huez avec Mathieu Charrier.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Jean-Paul Gaultier passe à autre chose. Son défilé haute couture la semaine prochaine sera le dernier. Après 50 ans de carrière, le créateur évoque un nouveau projet. À retenir également ce soir la fin du procès du père Prena. La procureure a requis au moins 8 ans de prison. Le Canada demande à l'Iran de confier à un laboratoire français les boîtes noires du Boeing ukrainien abattu par erreur à Téhéran. Demande formulée par le Premier ministre Justin Trudeau. La Coupe de France de foot, 16e de finale, Marseille en déplacement en Normandie ce soir face à Granville, coup d'envoi 21h05, le match se joue à Caen. Et puis en ski, Alexis Pinturo reprend la tête du classement général en Coupe du Monde. Il termine 2e au combiné de Wengen en Suisse.
Merci beaucoup Sébastien, l'info revient avec vous 18h sans faute lundi. C'est l'hiver Anissa, c'est l'hiver.
Oui ça y est, c'est l'hiver. Bon alors je vous rassure, attention, on va pas plonger dans des températures vraiment négatives. Les gelées elles sont pour les montagnes, mais elles vont baisser quand même ces températures. Il faisait relativement doux depuis quelques jours. Et bien pour vous dire un petit peu ce qui va se passer ce week-end, dans le sud nous aurons l'après-midi les températures que nous avions le matin. Voilà, nous aurons en moyenne 8 degrés dans le sud ce week-end. Et ça va durer encore quelques jours. La bonne nouvelle, c'est que le temps redevient sec. Donc, ce sont de vraies journées d'hiver qui nous attendent. Un temps sec, des éclaircies et de la fraîcheur. La neige est également de retour sur le massif central des Pyrénées et les Alpes. Il neige à partir de demain et à partir de 600 mètres, donc il neige vraiment à basse altitude. Partout ailleurs, eh bien le ciel est couvert demain, mais le temps reste sec. Attention en Corse quand même, hein, le vent de sud-sud-est qui souffle assez fort, jusqu'à 70 km/h. Les températures, donc je vous le disais, elles baissent et ce pour plusieurs jours.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec du cinéma, du cinéma drôle. Le festival de l'Alpe d'Huez se tient actuellement et vous recevez Nathalie Demaître de la comédie au cinéma. Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, ils ont réalisé notamment Le Prénom et Le Meilleur Reste à Venir qui est en salle actuellement.
Exactement, avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini dont on entend un extrait de la bande originale sortie il y a à peu près un mois, un peu plus, et toujours en salle. Et effectivement, comme on n'a pas pu aller au festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez, bienvenue à vous. On a choisi de vous avoir, vous deux, en studio ce soir et on est ravis. Bienvenue à vous, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte.
Bonsoir.
C'est sympa d'avoir fait le détour par Europe 1 parce qu'effectivement, Anissa le disait, vous êtes des maîtres en matière de comédie. Le Prénom, un carton en salle, plus de 3 millions d'entrées, 5 nominations au César, hein, c'est ça ? J'ai bien compté ?
Oui.
Voilà. Là, un nouveau film écrit à 4 mains, parce qu'il faut quand même qu'on dise que vous êtes inséparables depuis 20 ans. Hein. Un nouveau film écrit à 4 mains, cette comédie dramatique. La comédie, elle attire, elle cartonne, clairement. Aujourd'hui, quels sont les bons ingrédients ? Si on avait la recette, ça se saurait. Hein. Mais quand même, les ingrédients, j'allais dire, indispensables pour réussir à faire une comédie et à filer à l'Alpe d'Huez et même à en ressortir avec un prix. Bah, alors, qui s'y colle ?
Ah, c'est une question qu'on se pose tous les jours.
Alexandre,
depuis 20 ans, je pense pas qu'on ait la réponse. Heureusement, on l'aura pas. Je pense que c'est ce qui nous frappe, et on en reparlait encore aujourd'hui, c'est que, et en France en particulier, on reste un pays où il y a une diversité, même dans la comédie, qui est très importante. Et c'est pour ça qu'on est un peu au-delà des recettes. Il y a encore des grands films populaires, mais il y a Toledano et Nakache, il y a Quentin Dupieux, il y a Le Bon Dieu, il y a Les Tuches.
Il y a La Patelière de la Porte.
Et donc, il y a des comédies d'auteurs. Et je pense que c'est... Voilà, après, beaucoup de comédies qui, en ce moment, j'ai l'impression, aussi reviennent à des sujets de société.
C'est plus sociétal, c'est ça ? C'est dans l'air du temps ?
Il y a comme un peu un retour des années 70 par rapport à ça, on a le sentiment, enfin moi j'ai l'impression qu'on revient, que les comédies reviennent toucher des sujets de comédie, de société.
Mathieu Delaporte, mais quand même les sujets de société dans la comédie ça a toujours été, parce
que c'est pour ça que c'est
les ch'tis par exemple.
C'est assez insaisissable en fait, parce que chaque année vous essayez de vous dire bon ok cette année ça a marché, et en fait l'année suivante les choses changent. C'est-à-dire que le film qui a le plus marché cette année, c'est Le Bon Dieu 2. Bon, c'est la suite du Bon Dieu, donc c'est une suite. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des films prototypes, c'est des nouveaux films, c'est des nouveaux venants. Cette année, ce qui est vrai, c'est que ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un casting. Ce qui est vrai, c'est que les films qui ont marché cette année, c'est des films qui ont un taux de satisfaction qui est élevé auprès du public. Donc je pense que le bouche-à-oreille joue beaucoup. Il ne suffit pas de mettre quatre grosses vedettes pour tout d'un coup.
Parce que c'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes. Hein. Franck Dubosc, souvent, à l'affiche, ou Omar Sy. On a toujours un peu les mêmes comédiens dans ces grosses...
Mais là, je trouve que c'est plutôt, pour le coup, je trouve que c'est plutôt un peu moins vrai qu'il y a quelques années. D'accord. Parce que si on regarde les films qui ont marché cette année, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? Il y a effectivement Clavier. Mais sinon, ensuite, il y a le film de Guillaume Canet. Il y a effectivement la bande du premier film.
Ça, c'est une comédie ? Ça, vous le mettez dans la catégorie comédie ? Les petits mouchoirs et la suite ?
C'est une comédie dramatique, mais avec quand même des éléments de comédie. Mais il y a aussi La Vie scolaire, avec des nouvelles têtes. Il y a le film de Nicolas Bedos, qui est aussi avec un casting qui est brillant, mais qui n'est pas forcément un casting de comédie évident.
Donc, en fait, la palette est quand même assez large.
Je trouve qu'au fond, elle est plus large qu'elle ne l'a jamais été.
On va faire un tour du côté de l'Alpe d'Huez quand même. On a envie de prendre la température avec Mathieu Charrier qui, lui, est sur place, les pieds dans la poudreuse, ou quasiment, et d'ailleurs jusqu'au 19 janvier. Salut Mathieu.
Salut, il a neigé toute la journée.
José Garcia est le président du jury. Il y a eu le Lyon qui a ouvert le festival. Quelle est la température là, à l'heure qu'il est ? Comment on sent les choses chez vous ?
Mais c'est, je vais reprendre un peu ce que viennent dire nos deux amis. C'est vrai qu'on a tous les ans à l'Alpe d'Huez un peu un condensé de ce qui se fait en termes de comédie. Et c'est vrai que tous les ans, on se dit qu'aujourd'hui, la comédie, c'est effectivement soit de la comédie familiale ou de comédie de potes, comme Le Meilleur Reste à Venir, comme Les Petits Mouchoirs, etc., ou Le Bon Dieu, soit de la comédie sociétale. Et c'est vrai que, vous savez, l'Alpe d'Huez, c'est un festival de public, c'est-à-dire que c'est une salle, il y a 1300 personnes, alors il y a évidemment beaucoup d'invités, mais il y a aussi du public, des gens qui viennent prendre leur petite place, qui sont là, qui vont voir plusieurs films. Donc nous, on voit très vite ce qui marche, entre guillemets, ce qui prend, ce qui fait réagir les gens. Et c'est vrai qu'on a découvert, je pense par exemple à deux films qui ont fait énormément réagir le public et qui sont deux films qui parlent de société. Il y en a un qui s'appelle Forte, qui est réalisé par Mel Rabedian, on en a parlé.
De Katia Lefkowski, Skiz.
Voilà, exactement.
Compliqué à dire, Valérie, merci.
Exactement, c'est la sœur de Ramsey, et dans lequel elle raconte son mal-être dû à son surpoids depuis qu'elle est très jeune. Donc c'est un film devant lequel vous riez, parce qu'elle se met à la pole dance, donc évidemment c'est drôle, mais en même temps c'est très très émouvant. Il y a un film aussi qui est passé hier matin, que personne n'avait vu arriver, qui s'appelle Mine de Rien, qui se passe dans le Nord, sur l'histoire d'anciens mineurs qui veulent sauvegarder leur mine. La mairie veut la raser, ils se disent bon c'est bon, hein, les mines elles sont plus en activité. Il y a notamment Arnaud Ducré, il y a Philippe Rebaud dans cette comédie-là. Et évidemment c'est très touchant, parce que vous avez des gens qui se battent pour un outil, pour quelque chose de patrimonial, et vous auriez vu la salle, à quel point la fin elle réagissait, à quel point la fin elle applaudissait. Et je dirais presque même, sans doute un petit peu plus que pour l'ouverture avec le lion, pourtant porté par le duo d'Annie Boone et Philippe Catherine. Et là, on est dans de la comédie, de la grosse comédie.
Qui est présentée hors compète, d'ailleurs.
Qui est présentée hors compète.
Mathieu, on ne vous arrête plus, mais attendez. On va se retrouver dans un instant. On a Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte qui sont avec nous. Leur film, toujours à l'affiche, c'est Le Meilleur Reste à Venir. On reste ensemble, on se reparle de l'Alpe d'Huez, mais plutôt plus largement de la comédie, un style français, vous allez nous le dire après.
Et si vous aimez, vous aussi, la comédie, si vous avez des questions à poser à nos invités jusqu'à 20h, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. On parle cinéma sur Europe 1 dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec vos invités Nathalie Lévy. Vous recevez deux réalisateurs qui nous ont fait rire au cinéma, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. Ils ont notamment réalisé Le Prénom, Papa ou Maman ou encore Le Meilleur Reste à Venir, actuellement en salle.
Avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini. Et c'est pas fini, il y a Par le bout du nez avec François-Xavier de Maison et François Berléand à partir du 25 février. Cette fois, c'est au théâtre Antoine à Paris. Merci d'être là tous les deux. Et Mathieu Charrier est à l'Alpe d'Huez pour nous faire vivre aussi ce festival de la comédie. Je me demandais, tiens, la comédie, c'est vraiment une particularité française, la comédie comme on le sait le faire, que ce soit sociétale ou pas d'ailleurs. On a une particularité, nous, en France ?
C'est un genre français.
Oui, c'est amusant. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée quand on a voyagé avec les films ou les pièces qu'on a pu faire. Souvent en Allemagne, par exemple, ils nous disent « Mais comment ça se fait qu'en France ?» Je crois que c'est une tradition aussi avec Molière et tout ça. On a une habitude de la satire sociale, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays. Par exemple, en Angleterre, ils ont énormément de comédies, un humour anglais très sophistiqué, mais qui est rarement une comédie c'est rarement sociétale. Ils abordent rarement... c'est plus familial ou autre, mais il n'y a pas ce côté comme nous on peut avoir de critique sociale ou satire sociale. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on a grandi et on est habitué, et c'est vrai que la comédie française s'exporte plutôt très bien.
Bah oui, plutôt très bien. Alexandre de la Patellière, on a comme ça souvent du fond. La forme, finalement, c'est assez cohérent et tant mieux. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas trop à, j'allais dire, classer les catégories dans les grandes manifestations type les Césars. Et là, c'est tout le nœud du problème quand même, parce qu'on se demande s'il ne faut pas classer deux catégories. À chaque fois, c'est un peu la quadrature du cercle quand arrive cet événement.
Bah c'est compliqué. Après, il y a... Ce sont des philosophies différentes. Il y a, par exemple, au Golden Globes aux États-Unis... Oui. Ces fameuses catégories entre les films dramatiques et les comédies. Moi, personnellement, je pense, je serais assez partisan de ça, parce que je pense que ça amènerait encore plus de diversité.
De catégories pour les films dramatiques et pour les films comiques.
Oui, je trouve que c'est assez complexe de les opposer. D'ailleurs, les cérémonies ne les opposent pas vraiment. Mais je pense que ça ouvrirait aussi une porte qui serait intéressante. Et ça amènerait encore plus de diversité, et ce qui est encore une fois c'est je trouve que c'est une chance, parce que quand on voit le cinéma européen, et je trouve même par rapport au cinéma américain qui reste très brillant, mais on garde en nombre de films et une diversité, parce qu'on se plaint parce qu'on est français, et c'est pour ça qu'on fait des comédies qui sont souvent marrantes parce qu'on aime bien se plaindre, mais on a quand même un cinéma qui est très vivace. Il se passe tous les ans des choses chouettes.
Très prolifique, très vivace, très diversifié. Mathieu Charrier, depuis l'Alpe d'Huez, c'est ce que vous constatez dans ce festival, j'imagine. Oui. Et puis, quand on revient sur les Césars, par exemple, et sur la comédie, on se dit c'est compliqué. On a eu la preuve encore récemment.
Ah ben ils sont bien embêtés, les Césars, avec la comédie. Alors vous savez, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis en place le César du public en se disant le film qui fait le plus d'entrées, le aura automatiquement le César du public. Ouais. C'était il y a 2 ans, il y a Danny Boone qui en a eu un. L'année dernière, c'était Les Tuches. Bon, le milieu du cinéma, quand il voit Les Tuches venir récupérer un César, ça lui fait bizarre. Alors cette année, on rechange la règle. Finalement, ce sera les 5 premiers films qui ont fait le plus d'entrées. Et puis ce sera quand même les votants qui, à la fin, voteront. Donc en fait, ils veulent récompenser de la comédie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et quand vous regardez, par exemple, Le Grand Bain, qui était quand même un film de comédie qui a cartonné et qui était
avec
très
Gilles
bon.
Lelouch, entre autres.
Voilà. et il a 9 nominations, il repart juste avec un César et du meilleur acteur dans un second rôle. Le sens de la fête à l'époque était reparti bredouille alors qu'il avait dans mon souvenir 11 ou 12 nominations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cinéma, c'est la comédie qui fait vivre le cinéma français pour beaucoup, mais les Césars et les récompenses ont du mal à récompenser ce type-là de cinéma.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, on vous laisse mais à l'Alpe d'Huez, profitez bien, racontez-nous tout, on veut savoir évidemment, mais en tout cas on a compris que Forte, hein, ça fonctionne bien jusque-là.
Ah oui, Forte ça fonctionne, ça mine fonctionne. De rien.
Mine de rien, ok, de Mathias Melcluze, je crois que je l'ai abîmé. Merci Mathieu Charrier, Alexandre de la Patellière et Mathieu Laporte, vous êtes avec nous, on se retrouve dans une seconde.
Restez avec nous vous aussi pour poser vos questions en direct. N'hésitez pas à 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. On parle cinéma, on parle comédie avec deux grands réalisateurs, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. Et ils sont à table parce que vous le savez, tous les vendredis avec Marion Sauveur, on déguste.
Et oui, on déguste. Vous aimez la cuisine italienne ?
Mais absolument, on aime toutes les cuisines.
Voilà. C'est un de nos problèmes. Donc voilà, c'est une spéciale dédicace avec Marion Sauveur. Salut Marion.
Bonsoir.
Bienvenue. Effectivement, parce que c'est la journée mondiale de la cuisine italienne.
Et oui. Ah. Et voilà.
Ah, là, là. Ah, on y est là. Alors évidemment, il y a la pasta, il y a la pizza. Moi, c'est ce dont je rêvais ce soir. Mais là, on a un bon petit plat.
Eh ben oui, un plat réconfortant en hiver quand il fait bien froid. Comme pour ce week-end, eh ben un osso buco. Parfait. C'est ce que vous avez sous vos yeux, signé du chef Fabrizio Cozzo, le chef exécutif d'Italie Paris. Il vient de l'Osteria del Vino. Cet osso buco, il est servi dans une belle cocotte posée au milieu de la table pour deux. Alors, je vous laisse déguster.
Hein. Oui, et dites-nous exactement ce que c'est que l'osso buco.
Alors, l'osso buco peut se traduire par ostrué, puisque vous voyez, vous avez un morceau de jarret de veau avec son gros os à moelle qui donne l'onctuosité à la sauce. Hein. Alors, c'est un plat en sauce, subtil, très parfumé, sous ces airs de gros plats mijotés qui réchauffent que vous détestez peut-être.
Mais je vais tester absolument parce que ça, je ne sais pas faire. Et ça vient d'où ?
Alors ça vient d'où ? Ça vient de Milan, au nord de l'Italie. C'est une recette très populaire là-bas, puisque en fait l'élevage est prédominant dans le nord de l'Italie et on accorde une grande place à la viande en cuisine. Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce que ce plat a été créé. Pour les spécialistes, l'osso buco aurait des origines médiévales. À cette époque, on utilisait souvent en cuisine la moelle osseuse, qui explique cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est né à Milan. C'est le vrai plat du dimanche des familles bourgeoises milanaises.
Ah, c'est bourgeois, c'est bon marché ou c'est...
C'était bourgeois à l'époque, puisque le jarret était une viande noble en fait, et les pauvres gardaient du coup eux par contre les bas morceaux. Alors l'osso buco a reçu la dénomination communale de Milan en 2007, c'est une sorte d'appellation en fait. Aujourd'hui on le trouve surtout dans le nord de l'Italie, dans les trattorias. Voilà.
C'est délicieux. Alors, la recette, moi ça me semble compliqué a priori, non ?
Non, chaque famille a sa propre recette. D'accord. Mais alors pour savoir comment réaliser l'osso buco traditionnel, je vous propose qu'on écoute les conseils d'une véritable ambassadrice de la cuisine italienne à Paris. C'est Alessandra Pierini, qui est propriétaire de l'épicerie italienne Rap. C'est dans le 9e arrondissement. C'est une vraie, véritable caverne d'Ali Baba. Bonsoir, Alessandra.
Bonsoir.
Vous allez nous dire après.
Alors, quelles sont vos astuces pour parater cet osso buco ?
Alors déjà, on choisit une très bonne viande. Vous avez bien dit que c'est du jarret de veau, que c'est donc cette viande de veau qui est assez tendre, assez blanche, avec un os. Il faut donc, chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais toujours penser de bien fariner la viande, parce qu'elle va rissoler donc dans le beurre, dans la cocotte. Et cette farine lui permet de donner de l'onctuosité et surtout
faut que ce soit bien doré, hein, surtout. Et puis vous l'accompagnez d'un sofrito, hein, que vous faites cuire à part. Alors le sofrito, c'est un haché d'oignons, de céleri, de carottes, hein, c'est ça ?
De carottes qu'on fait revenir donc d'abord avec le beurre tout seul. Le jarret de veau, on le farine, on le fait revenir à part dans une autre cocotte. On l'incorpore à la suite une fois que le sofrito est bien savoureux, parfumé et légèrement revenu. On le met dans cette cocotte. On n'oublie pas surtout d'arroser avec du bon vin blanc sec. Si on a un vin blanc très bien de la région du nord de l'Italie.
Bah oui, bien sûr.
Un joli vin sec. Et ensuite, ça va donner aussi bien du jus des sucres. Et ensuite, il faut faire cuire assez longtemps, bien 45-50 minutes. Ça dépend après de l'épaisseur donc du jarret de veau, avec un bouillon qu'on aura de préférence se préparer maison un petit peu à l'avance, soit en bouillon de légumes, en bouillon de viande.
L'idée, c'est de laisser mijoter ensuite à couvert cette sauce et puis on l'accompagne d'un risotto au safran comme ici par exemple ou d'une polenta. C'est délicieux. Merci beaucoup Alessandra. On retrouve d'ailleurs pour les amateurs de pâtes, n'est-ce pas Nathalie, votre livre La Pasta Allegra que vous avez écrit avec Sonia Esguillon aux éditions de L'Épure.
Ouais, Alexandre de la Patelière, Mathieu de la Porte, vous avez eu un petit une petite réaction quand
nous connaissons bien cette
très bien. Oui, Alexandra dans le 9e arrondissement, cette adresse. D'accord. OK, donc vous êtes des amateurs effectivement. merci Marion, on a tout. Est-ce qu'on a tout pour faire un bon osso-buco là? On a tous les éléments grâce à vous?
Bah oui,
on
bien
est
sûr.
Bon bah parfait.
On y va pour ce week-end. J'attends de le voir ce week-end. Oui, je vous laisse travailler.
Merci beaucoup. Le bon vivant, c'est demain 11h sur Europe 1 autour de Laurent Mariotte avec au programme
un dossier consacré à la cuisine bourgeoise, des plats en sauce encore une fois. C'est la saison et c'est comme les aimait Paul Bocuse, l'occasion avec l'actualité d'aujourd'hui d'en parler. On parlera du céleri rave, de la cuisine du Nord avec le Welsh et puis on recevra le bon vivant Bruno Solo.
Bon bah parfait, on adore cette idée. Très bien. Messieurs Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, on a parlé de cette pièce, on va y venir dans un petit instant, vous allez nous dire ce qu'on va y trouver. Mais juste pour revenir sur les comédies, le seul film français à se hisser dans le top 10 des films ayant fait les plus d'entrées en France, c'est une comédie. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Quelles leçons on peut en tirer? Question piège, non?
Non, pas du tout. C'est le sujet a vraiment touché les gens. Je pense que c'est c'était une manière aussi de parler de la société. Donc là, il y a eu une suite. Mais c'est vraiment du très gros score. Ça doit être 6 millions
et demi, je crois.
Le premier a fait plus de 10.
Voilà, donc c'est devenu comme une franchise, comme
les Bronzés à l'époque.
Donc, voilà, les gens aiment retrouver.
Intouchable avec
Donc c'est des succès. Après, ce qui reste aussi joli dans notre métier et dans nos métiers, c'est que les succès, ils restent très inexplicables.
Ouais. Heureusement.
C'est des accidents heureux.
C'est du mystère.
Pour ça qu'il faut, j'allais dire, produire beaucoup pour réussir à récupérer. Il faut en faire un maximum pour ça.
Je ne sais pas si c'est le maximum. Je pense qu'il faut, il faut faire des films qu'on a envie de voir soi-même. C'est-à-dire que je crois qu'il y a... Il n'y a pas de recette. Il faut, au fond, essayer de suivre ses envies en espérant que ses envies soient partagées par d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est assez inexplicable. Et c'est assez merveilleux de voir qu'il y a des films qui sont assez imprévus, qui gagnent chaque année, et d'autres qui se cassent la binette.
Voilà, c'est vraiment sur le rire, une chose qui est assez... on a écrit des pièces, notamment, ou fait des films. On a voyagé avec ces films dans plusieurs pays. Et voir les gens rire en d'autres pays à vos blagues reste une chose assez étonnante.
Par le bout du nez, cette fois, c'est pas sur grand écran, mais ce sera certainement la prochaine étape, comme souvent avec vous. Ça s'installe au théâtre Antoine à partir du 25 février. François-Xavier de Maison, François Berléand. Juste en une seconde, l'idée?
L'idée, c'est un président de la République qui vient d'être élu. Il est pris d'une démangeaison nasale terrifiante. On n'arrive pas à le soigner, il doit faire son premier discours et on lui envoie un psy. Pour essayer de lui faire une psychanalyse express pour lui sauver la mise.
C'est Berléand le président?
Berléand est le psy et François-Xavier de Maison est le président.
Bon, Naz, il va venir nous voir bientôt. Merci à tous les deux, Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. Merci à vous.
C'était très bon.
C'est déjà ça. Émilie Mazoyer, on n'a plus rien pour vous, mais on est là.
On a tout mangé. Vous avez tout mangé. C'est dommage, j'aimais bien l'idée du Welsh. C'est quand même le seul plat qui permet de manger de la bière. J'adore le concept. Donc on va être très chic ce soir. J'espère que tout le monde s'est fait beau puisque nous allons mettre des trucs en plume.
Plume des oiseaux, des animaux.
On va aller au cabaret transformiste et rock'n'roll le plus ancien en activité à Paris, Madame Arthur, avec notre invité, l'ébouriffante Patachetouille.
Oh là là,
oh là, ça va donner ce soir. On est vendredi.
C'est ça, c'est Ambiance Club, quoi. Avec vous dès 20h. Merci beaucoup, Émilie. On vous reste fidèle, bien sûr. Merci à nos invités, Alexandre de la Patelière, Mathieu de la Porte. L'info revient dans quelques secondes sur Europe 1. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, lundi, non?
Alors c'est demain, ça, demain vous charge.
Donc lundi, on sera là, 18h-20h, évidemment, sur Europe 1 pour écouter ensemble Le Monde Change. Et merci à tous.
À lundi, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.